Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Chers amis, bonsoir et ravi de vous retrouver pour les débats d'Europe Soir jusqu'à 20h avec une candidate de plus à gauche, le spectre Taubira qui finalement envisage d'y aller. L'ancienne garde des Sceaux avait fait planer le suspense. Finalement, elle veut débattre, tout comme Anne Hidalgo qui propose désormais un débat télévisé. Autant vous dire que tout cela exaspère Yannick Jadot qui a pris la parole dans un grand soupir. La gauche, plus que jamais éparpillée face son puzzle. Débattre d'accord, mais débattre de quoi à 4 mois de la présidentielle alors que les Français ont la tête à autre chose, en l'occurrence aux fêtes de Noël, on en parle dès le début de notre session d'information. Ceux qui ont pris le train ce matin savent de quoi je parle. La grève des cheminots a fait pchit, n'empêche que les trains n'étaient pas au complet ce matin, loin de là. Hier, celle qu'on pourrait appeler désormais la Blitzgrève, la grève éclair, a fini presque aussitôt qu'elle avait commencé. Plutôt que d'écouter les ténors de Sud et de la CGT, les cheminots, contrôleurs, aiguillères, ont préféré prendre la prime, aussitôt dégagée par la direction. Selon l'adage, prends l'oseille et tire-toi, on a tous vu le film. 600 euros valent mieux que des semaines de galère et de négociations. N'empêche que la crédibilité des syndicats en prend un coup, on en parlera. Après le journal de 19h d'Hélène Zélani, le cri du cœur de Francis Palombi, l'emblématique président des commerçants de France que l'on a l'habitude d'avoir ici en studio à Europe 1, a attrapé le Covid et il souffre. Francis Palombi, 73 ans, avait fait le choix de ne pas se faire vacciner. Aujourd'hui, il prend conscience de ce qu'il qualifie lui-même de connerie et appelle tous les non-vaccinés à se faire vacciner, vous l'entendrez et nous en débattrons. 19h30, nous suivrons les derniers développements du Conseil de défense sanitaire qui se tient en ce moment même à l'Élysée, sachant que le comité éthique a donné son feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. À table ce soir, autour de moi, l'essayiste Jeannette Bougrave, bonsoir. Louis Osalter de Marianne, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
On attend d'un moment à l'autre le député du Val-d'Oise François Pupponi. Et je dis bonsoir également à Eduardo Riancipel.
Bonsoir.
Membre du Conseil national du Parti socialiste. Dans le reste de l'actualité, l'arrivée du variant Omicron fait trembler l'Europe. L'Allemagne dit se préparer à une vague massive. Le Danemark a décidé de fermer ses cinémas, ses théâtres, ses salles de concert. 11 000 cas détectés ces dernières 24 heures dans le pays. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 93 000 cas recensés en un jour. La France monte au créneau dans le dossier des licences de pêche. Elle va demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux contre le Royaume-Uni. Elle concernera les licences qui sont les plus prioritaires. C'est ce qu'a souligné Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Une soixantaine de licences n'ont toujours pas été accordées. Le gouvernement qui demande aussi à EDF de prendre des mesures pour améliorer la sécurité d'approvisionnement en électricité. L'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires font craindre des tensions pour cet hiver. Les votes sont ouverts, vous pouvez désigner les athlètes qui seront chargés de désigner les deux porte-drapeaux de la délégation française aux JO de Pékin, un homme et une femme. À choisir, ils défileront le 4 février prochain lors de la cérémonie d'ouverture. Le vote s'effectue en ligne sur le compte Facebook de l'équipe de France Olympique et Paralympique. Un mot de sport également avec le mondial de handball. L'équipe de France féminine affronte le Danemark depuis une demi-heure. Et puis sachez que l'actrice Kate Blanchett va recevoir un César d'honneur le 25 janvier prochain pour sa carrière et ses engagements. La star australienne, doublement oscarisée déjà pour ses rôles dans Aviator et Blue Jasmine, Europe 1, 18h.
Soir week-end, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Pensez-vous que la gauche manquait d'une candidate tapée 1 ? Pensez-vous au contraire que la gauche a fait son plein de candidats tapés 2 ? Ça ressemble à un jeu télévisé, mais ça n'en est pas un. C'est vrai, le spectre de la candidature Taubira planait depuis plusieurs semaines. Le suspense a donc été rompu quand l'ancienne garde des Sceaux est apparue aujourd'hui, 3 minutes sur Facebook, avec notamment ce message.
Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Je vous souhaite de bien finir l'année. Je vous invite à prendre soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier.
Voilà, il était un peu plus de 11h ce matin. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à voir apparaître Anne Hidalgo qui du coup saisit la balle au banc pour à nouveau proposer son idée de rassemblement et de débat.
Débattons devant nos concitoyens. Assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger, je l'espère, les convergences, mais aussi, bien sûr, de montrer les différences. Débattre devant les Françaises et les Français sur une chaîne de télévision pour pouvoir exprimer ce que la gauche, ses différentes composantes, portent aujourd'hui devant les Français dans cette élection présidentielle.
Un débat, une primaire, vous imaginez la réaction de Yannick Jadot? Allez, je vous laisse écouter.
Moi, je ne retournerai pas dans une primaire avec un socle programmatique qui n'est quand même pas à la hauteur de notre ambition climatique, qui n'est pas à la hauteur de notre ambition sur l'Europe. Que chacun mène les processus démocratiques qu'il considère les plus pertinents. Attention à ne pas détourner l'attention des Françaises et des Français de nos propositions pour faire, encore une fois, pour résoudre des candidatures qui sont dans l'impasse et qui sont en difficulté et qui essayent de trouver une porte de sortie avec un pseudo-débat démocratique qu'ils n'ont pas voulu avoir les précédents mois.
La pseudo-débat démocratique, Yannick Jadot, vous l'entendez, totalement exaspéré, qui rajoute « Je poste une vidéo de 3 minutes, je reviens dans un mois », c'est pas totalement à la hauteur des difficultés que rencontre notre pays. Qu'est-ce que ça change, la candidature Taubira, dans cette course à la présidentielle, Louis Osalter?
Pour l'instant, pas grand-chose si l'on en croit le sondage qui donne Christiane Taubira à 2%. Ça peut changer des choses de manière symbolique parce que, assez mystérieusement, Christiane Taubira est un peu la béatifiée, la figure de gauche béatifiée en quelque sorte. C'est-à-dire que dans l'imaginaire
quel miracle,
de la gauche,
de suivre votre métaphore.
Par le miracle le plus récent, c'est le mariage homo. C'est-à-dire que c'est par le mariage homosexuel qui est la dernière. Conquête du progressisme revendiqué de la gauche, c'est elle qui en est la grande ordonnatrice, en tout cas la grande oratrice, en 2013, pendant le quinquennat de François Hollande. Et en fait, c'est ça qui entraîne toute une réflexion sur ce qu'est devenue la gauche. C'est-à-dire que maintenant, c'est uniquement par les réformes sociétales qu'on devient une icône de gauche. Et moi, je ne sais pas ce que pense Christiane Taubira, parce qu'elle en a très peu parlé. De toute façon, elle a très peu parlé ces dernières années de la désindustrialisation, du déclassement des classes moyennes, du mouvement des gilets jaunes, des inégalités économiques et sociales.
Elle n'avait pas non plus déroulé un programme à sa première vidéo où elle dit qu'elle envisage d'être candidate.
Bien sûr, mais on a une candidature, une possibilité de candidature qui arrive comme un cheveu au milieu de la soupe sans qu'on sache exactement de quel corpus elle sera faite. C'est-à-dire que Christiane Taubira est créditée d'être l'icône qui pourrait sauver la gauche, alors même que sur le fond, on ne sait absolument pas ce qu'elle pourrait apporter comme plus-value.
Bah, rendez-vous le 25 janvier.
Oui, on verra bien. Mais,
et puis, c'est loin d'ailleurs le 25 janvier.
Et je compléterai en ajoutant, en fait, ça me rappelle, Taubira, c'est un peu la Zemmour de la gauche, sans les intentions de vote pour l'instant. Oui. Mais je vous dis pourquoi. C'est parce qu'il y a cette espèce d'aspiration à la pureté idéologique, à la grande figure qui en fait dirait les choses qu'attendrait le peuple de gauche comme Zemmour dirait les choses qu'attendrait vraiment le peuple de droite et qui serait la grande oratrice, la grande voix qui irait sauver son camp politique. Parce que ce serait elle qui serait la plus pure idéologiquement et la plus claire. Alors les intentions de vote ne suivent pas derrière, mais vous voyez pourquoi je fais cette comparaison sur les deux camps de l'échiquier politique.
Jeannette Bougrade.
Juste deux petites remarques. C'est bizarre parce que vous parliez du mariage pour toutes et pour tous, mais par contre la PMA pour toutes, vous l'oubliez. Alors c'est aussi un progrès. C'était quelque chose qui était attendu, notamment pour de nombreuses femmes. Donc
oui, mais c'est pas Taubira qui l'a fait.
Oui, je sais, mais vous dites la dernière. Dernière mesure progressiste à qui l'on
doit... Oui, j'ai dit revendiquée par la gauche. Voilà. La PMA, c'était Macron, je compte. Bon,
donc
qui
vous
ne
dites
se dit pas de gauche.
Deuxième remarque, c'est que la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était qu'elle n'appelait pas à faire vacciner, notamment en Guyane. Donc, de dire on est en pleine sixième vague, on nous annonce pour d'ici Noël 4000 patients en réa, on va entendre un témoignage poignant. De se dire qu'on ne l'a pas entendu depuis longtemps. La dernière fois qu'on l'a entendu, ce n'était pas très rassurant parce que justement, elle refusait d'appeler ouvertement à se faire vacciner. Donc là-dessus, moi, cette auréole, je vais l'enlever assez brutalement,
c'est vrai,
pardonnez-moi, alors qu'on a encore, je crois, 200 personnes qui meurent.
Que dit le PS dans tout ça, Édouard Dorian Cipel?
Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde à gauche constate la difficulté dans laquelle nous sommes. l'impasse, même pour reprendre y compris les termes de Christiane Taubira, mais qui étaient aussi ceux d'Anne Hidalgo.
Vous posez ça élégamment. Hein.
C'est la situation dans laquelle la gauche se trouve. Je fais toujours le pari de l'élégance.
Oui, oui, bravo.
C'est l'esprit français.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il y a une difficulté. Il y a une difficulté aujourd'hui. Tout le monde voit qu'aucune des candidatures n'arrive seule à essayer de jouer le second tour, de se qualifier, d'être utile donc, pour le pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'Anne Hidalgo a proposé d'abord une primaire, d'essayer que tout le monde discute et trouve une solution. Et je constate aujourd'hui, avec l'engagement de Christiane Taubira, qui est une grande dame de la gauche et de la politique française, je constate qu'il y a une convergence. Il y a une convergence de vues sur la difficulté et l'impasse et la nécessité de discuter. Et donc, je crois que ça, cette discussion, elle est nécessaire. Le débat est nécessaire, c'est ce que propose aussi Anne Hidalgo. Et je crois qu'il faut maintenant laisser le temps au temps, même si le temps est compté.
C'est ce que dit Yannick Jadot. Il dit, reste 4 mois, on n'a vraiment pas le temps de faire ça.
Oui, mais en même temps, ne rien faire conduit à l'échec. Comprenez ?
Il ne s'agit pas de rien faire, il s'agit de bouger.
Il s'agit de sortir du statu quo. Est-ce qu'un rassemblement est possible ? Est-ce que des discussions sont possibles ? Est-ce qu'on veut vraiment le rassemblement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment autre chose que juste être devant le Parti Socialiste ?
Est-ce qu'on
veut être au second tour de l'élection présidentielle ?
Est-ce que Yannick Jadot veut le rassemblement, selon vous ?
S'il le veut vraiment, et si Europe Écologie Les Verts le veut, je pense qu'il faut qu'il le montre, qu'il tende à leur tour une main, qu'il réponde à la possibilité d'une discussion. Il faut ne pas non plus mettre des pressions, et je dirais une pression trop visible, médiatique, qui surplomberait les discussions à gauche. Il faut, je crois, maintenant que Christiane Taubira a posé sa proposition, que Anne Hidalgo a répondu, que les discussions se fassent, et moi je suis convaincu qu'on va discuter. Je veux croire qu'un rassemblement, quelque chose comme une unité, un dépassement des candidats actuels, soit possible, parce que c'est la seule condition pour être sérieux. Je crois que ce sont les électeurs de gauche qui l'attendent. Hein. Soit on est en phase avec nos électeurs qui demandent un rassemblement, soit nous savons très bien quel sera le scénario.
François Pupponi.
Non, mais si effectivement la gauche constate qu'aujourd'hui, avec le nombre de candidats, ils ne peuvent pas y arriver, il faut effectivement qu'il y ait un rassemblement. Rassemblement, on dit quel est le meilleur pour gagner. Quel est le meilleur pour gagner. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, ce sont les sondages. Le meilleur pour gagner, c'est Jean-Luc Mélenchon ou Jadot. Et donc, il suffit que le Parti Socialiste dise « Ok, moi je considère que nous, on ne peut pas y aller. »
Gagner quoi et à combien, cher François ?
Non, mais gagner déjà faire un score honorable. Bon. Et puis jouer le deuxième tour. Et de se dire pourquoi on ne peut pas être qualifié pour le deuxième tour. Pour ça, il faut être autour entre 16 et 20%, parce que c'est les scores, ok. Bon, mais donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise, écoutez, moi, je dis sincèrement, je serais Hidalgo, je dirais, écoutez, on voit bien qu'on a du mal, on a fait 6% en dernière présidentielle, moi, je vais essayer de sauver la gauche et je me retire pour Jadot. Et puis, on y va. Voilà, je fais acte de... Je me sacrifie pour essayer de sauver la gauche. Parce que sinon... On va se voir pour discuter. Enfin, quand il dit, ils vont se voir. On va se voir pour discuter de quoi ?
Ce qui me surprend, mais c'est
de qui on sait à peu près qui
est
le mieux.
C'est la question que j'ai posée.
Qui est le mieux placé ? Enfin, qui est le mieux placé ? Après, on va se voir pour discuter des législatives. On va se voir discuter de plein de choses.
D'abord du projet.
Du projet, des législatives. Mais il faut bien qu'à un moment quelqu'un fasse le pas.
À 4 mois.
C'est ça. Il faut que quelqu'un fasse pas la question.
Mais venons-en au fond. Et moi, j'aimerais bien entendre Eduardo Riancipel sur d'accord. Très bien. Le fond, c'est quoi ? De quoi est-ce qu'on parle ? Et on commence par où surtout ?
Quel projet pour la France ? Enfin, il s'agit d'une élection présidentielle. Au Parti Socialiste, François Pupponi le connaît très bien, il a plus d'antériorité que moi par ailleurs, on sait faire, on a su faire. Donc, on est disponible pour montrer comment est-ce qu'on peut faire un projet qui permette de rassembler les Français, mais on peut aller très vite. Parce que vous savez, sur l'essentiel, il faut arrêter aussi avec les hypocrisies. Hein. Sur l'essentiel, je crois que la gauche, elle se retrouve. Il ne faut pas expliquer qu'on n'est pas capable, même en 3 semaines, de trouver un projet cohérent. Parce que quand on sait ce qu'on pense soi-même, on est capable de le partager avec les autres et très vite faire la différence entre ce qui est possible de faire, ce qu'on est d'accord pour faire ou pas. Donc, moi, je crois que l'unité, le rassemblement, c'est d'abord un état d'esprit, une volonté. Moi, je constate, j'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'à Europe Écologie Les Verts, le principal objectif n'est pas d'être au second tour, c'est d'être devant le Parti Socialiste et le premier à gauche. Tout le monde veut être premier à gauche, mais personne ne veut être au second tour de la présidentielle. Ce n'est pas sérieux. Donc, si on veut être sérieux, il faut essayer de faire ce que la gauche a toujours su faire quand elle était au rendez-vous, atteindre suffisamment de score pour être au second tour. Sinon, les électeurs, ils vont aller voir ailleurs. La moitié des électeurs de gauche iront chez Macron et le reste se dispersera par ailleurs.
Vous n'avez pas voulu le dire tout à l'heure, mais vous le dites là, avec vos mots. Yannick Jadot, cela joue perso, vous pouvez le dire.
Je peux comprendre. Non, je ne dirais pas ça parce que
il faut quand même.
Non, parce que si je veux le rassemblement, il faut être élégant, comme vous disiez. Élégant et intelligent. D'abord, soyons sérieux. Yannick Jadot a déjà fait une primaire écologiste. Il faut leur reconnaître ça. Je comprends sa position d'une certaine manière. Hein, il a fait une primaire. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait une primaire. Il a fait une primaire, il a gagné.
Oui.
Et beaucoup pensaient qu'il n'allait pas la gagner. Hein. Mmh. Bon, donc je comprends qu'il tienne à sa place. Et qu'il tienne dur sur sa position. Mais je pense qu'il peut aussi essayer de réfléchir, vu l'impasse qui est aussi la sienne. Et c'est à eux de savoir quel est leur principal objectif stratégique. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin, faire un peu de sacrifice, de compromis, comme tout le monde. C'est très simple. Tout le monde a besoin de faire un compromis, donc une part de sacrifice. Il n'y a pas d'unité, par ailleurs.
Quoi, non ?
Donc,
non,
soit
mais,
on, ça, dit non. Non, on se met d'accord, sinon on sera dans...
Comment ça, c'est de la tambouille, Jeannette Bourdin ?
Les sondages vous le disent déjà, le résultat.
On a l'impression d'être sous la Troisième République. On a l'impression d'être sous la Troisième République.
Non, ne dites pas ça. Mais c'était une grande République, la Troisième.
Laissez parler Jeannette Bourdin, elle veut développer son idée.
Je n'ai pas dit que c'était les grandes lois républicaines, les lois syndicales, les lois sur la presse, la liberté d'association, c'est la Troisième République. Donc, les premiers jours de congés pour les travailleurs, c'est la Troisième République. Donc, jamais je remettrai en cause l'héritage républicain de la Troisième. Mais c'est des tambouilles d'appareils de partis politiques. On essaye d'habiller ça en disant que ça va être de la démocratie. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Louise... Et on ne comprend rien à ça. En fait, on a l'impression que le seul qui est raisonnable, c'est quand même Yannick Jadot.
Louise Alter, pardon.
Aujourd'hui, il y a dans les intentions de vote, 2/3 des électeurs de Macron viennent de la gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y a de candidats de gauche, au fur et à mesure qu'il y a des candidats de gauche, il n'y a pas des électeurs de gauche qui viennent vers ces candidats. Donc, c'est-à-dire que la multiplication des offres, qui en fait n'en sont pas, parce que, par exemple, Hidalgo, pour ne prendre qu'elle, j'ai du mal à voir depuis le début quelle est exactement l'offre politique qui rencontre une attente dans le pays. Taubira, je viens de poser l'équation, c'est pareil. Bon, elle ne l'a pas dit, peut-être qu'elle le formulera, mais je ne vois pas exactement l'offre politique. Je vois un peu mieux chez Mélenchon. Là, je trouve que, du coup, il y a une différence idéologique qui est irréconciliable. C'est-à-dire que vous avez raison, il n'y a pas de différence entre les candidats de gauche, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est-à-dire que pour le projet, je ne pense pas que ce soit ça qui pose des difficultés. Je pense que c'est plutôt un bal des égaux et deux, la tétanie de l'effacement. Parce que pourquoi Hidalgo ne s'efface pas et pourquoi l'appareil du PS reste derrière ? C'est parce que se retirer pour le PS, ça veut dire acter le fait que dans l'histoire, c'est la fin du Parti Socialiste à la présidentielle et ce sont les écologistes qui prennent la place. Presque électorat pour électorat, ou en tout cas ce qu'il en reste. Donc ça, ça serait vécu comme un drame par toute une partie de l'appareil du PS, cette tétanie de l'effacement, et elle joue aussi pour les écologistes qui disent « La dernière fois, Jadot s'est retiré en 2017 pour laisser Hamon y aller, avec le résultat qu'on connaît, donc maintenant, c'est notre tour, voilà ce qu'ils disent. » Et je reviens juste à Jean-Luc Mélenchon pour dire que là, il y a une vraie différence idéologique sur l'Europe, sur l'économie.
Bien entendu, sur la République, sur l'Europe.
Sur la laïcité, il y a des vraies différences idéologiques. Donc que sur Mélenchon ne partage pas le projet et que du coup il ne participe à aucun mode de départage des candidats de gauche, ça je trouve ça tout à fait naturel. En revanche, entre une Taubira, une Hidalgo, un Jadot, c'est vrai qu'on se dit
le grand problème de ces candidats,
c'est beaucoup plus complexe
juste,
que ça.
Juste pour apporter un point, c'est que ces candidats de gauche ne sont plus réellement républicains. Le vrai sujet, ce qui faisait la force en fait de cette gauche, c'était une gauche républicaine, c'est-à-dire celle qui était attachée à l'égalité. Aujourd'hui, Christiane Taubira, sans parler de wokisme ou de cancel culture, elle incarne quand même cela. Donc où sont partis tous ces idéaux, en tout cas tels qu'ils pouvaient les incarner les hussards de la Troisième?
Elle incarne la gauche sociétale.
La vraie rupture entre les socialistes, la gauche socialiste et les écologistes, aujourd'hui, c'est les écologistes disent ce qui était un peu moins le cas avant. Voilà. Nous, maintenant, on ne va plus transiger. Si l'écologie, des mesures drastiques pour sauver la planète ne sont pas prises dans un programme présidentiel, on n'y sera pas. Voilà. Et ça veut dire qu'en fait, ils disent, voilà, où vous nous suivez sur ces thèmes-là, et on est beaucoup plus exigeant qu'on l'a été, y compris dans la dernière mandature, où on voyait la pression qui était sur la majorité, et on le voit, y compris dans cette majorité-là, comment des gens comme Orphelin, Mathieu Orphelin, sont partis à un moment, parce que Nicolas Hulot, sont partis en disant, voilà, le compte n'y est pas. Et là, Jadot et les écologistes, ils disent, nous, on ne fera plus de concessions là-dessus. La situation est trop
grave. On leur donnera un portefeuille ministériel comme Barbara Pompili.
Non, je ne crois pas.
Je ne crois pas.
Je pense que maintenant, ils disent stop, ça, on ne veut plus. Bon. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que le Parti socialiste est capable de renoncer au nucléaire, de renoncer à un certain nombre de citoyens. Parce que le problème des écologistes, c'est qu'ils ont une écologie punitive. C'est, on va taxer, on va empêcher, on va contraindre. Bon. Je prends un exemple très précis quand on parle du foie gras. Bon, est-ce que tous les élus socialistes des territoires du Gers et d'ailleurs, ils sont d'accord pour dire ouais, d'accord, on va supprimer. Bon,
voilà, j'aime le foie gras.
Le maire de Bordeaux était un peu moins d'accord.
J'adore le foie gras. C'est vraiment pas pour la souffrance des animaux.
C'est vraiment deux conceptions. C'est vraiment deux conceptions.
Non.
Deux conceptions. Deux sociétés différentes. Et deux sociétés différentes où on veut changer les choses complètement. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que le PS soit vraiment prêt. Ou alors, il faut qu'il accepte de dire « Ok, bon, on accepte
les prix sociaux. » Christiane Taubira, puisqu'on parle d'elle, sera demain, samedi matin, demain, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, pour son premier déplacement, après avoir justement fait cette déclaration de candidature. 18h16, une pause, et Eduardo Riancipel, qui voulait prendre la parole, la prendra juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Suite des débats d'Europe Soir avec l'essayiste Jeannette Bougrab, Louis Osalter, mon confrère de Marianne, le député du Val-d'Oise François Pupponi et Eduardo Riancipel, membre du Conseil national du PS. Et Eduardo Riancipel, à l'instant, on disait que finalement, est-ce que ça serait un déshonneur pour le PS que ce soit les Verts, cette fois-ci, qui mènent la gauche à la présidentielle?
Je crois que la question, il ne faut pas la poser comme ça. Pourquoi pas ?
Moi, je vous la pose comme ça.
Très bien.
Est-ce que c'est un déshonneur, oui ou non ?
Non, mais ce serait un déshonneur. Il n'y a pas de déshonneur. Ce serait très maladroit et dommage si on y va sans rien préparer à l'avance. Je veux dire, il y a plutôt de l'honneur à y aller rassembler sur un projet en sachant ce qu'on fait ensemble. Ça, c'est le grand honneur. Et dans ces conditions, je crois qu'il faudrait discuter pour
y
arriver.
Mais avec une tête de gondole.
Mais abandonner
si
juste parce
Jadot,
non,
que...
Non, mais franchement, je crois que l'idée de se dire « Tiens, on va abandonner parce qu'il a 2 points de plus que moi dans le sondage », tout ça ne serait pas très sérieux.
Mais ce n'est pas une histoire de sondage.
Je crois qu'au contraire, si on veut le faire, on sait le faire. La méthode, elle est connue. On s'assoit autour d'une table. On discute et on pose des points. Vous savez pourquoi la gauche, à mon avis, elle souffre dans cette élection ? C'est parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment claire sur une ligne social-démocrate capable de gouverner la France. Je crois qu'il faut clarifier les choses sur ce point. C'est
possible,
tout.
C'est pas
la peine de tourner le schmilblick dans tous les sens. Il faut concilier une politique social-démocrate
avec
l'écologie. Il faut une gauche sociale et républicaine.
Il va vous répondre.
Et donc, moi, je crois que sans projet, sans clarification, les électeurs sont perdus.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Le seul problème, c'est qu'il faudra expliquer ce que dans la politique du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron, il n'y a pas eu de social-démocratie. Qu'est-ce qu'on enlève ?
On peut aussi avoir ce débat-là.
Non, mais qu'est-ce qu'on enlève de ce qui a été fait ? Moi, je vois, on l'a dit toujours sur les quartiers, le doublement des classes, l'augmentation du financement de l'ANRU, la présence, les aides aux jeunes en difficulté, etc. Ça, c'est des réalités. On fait pareil ou on ne fait pas pareil ? Bon. Et sincèrement, c'est des mesures social-démocrates.
Et puis de l'autre côté...
Je finis. C'est des mesures social-démocrates. Par contre, s'il doit y avoir discussion, elles ne peuvent avoir lieu entre le Parti socialiste et les Verts que si la candidate du Parti socialiste dit « Voilà, moi, je veux bien discuter, je suis prêt à me retirer si on tombe d'accord. » Là, Jadot va dire « Venez. Oui. » Si on dit « On ne se met pas d'accord sur qui est candidat, on parle du... » Jadot, il dira « Jamais, non. » Par contre, si on dit « Si on tombe d'accord sur le fond, moi, je me retirerai. » C'est une autre manière de commencer la négociation.
Non, mais elle a proposé une méthode
de
travail, c'est la primaire, et elle a proposé un débat.
Elle l'a refusé moi, je crois... refusé il y a quelques mois.
Oui, non.
Oui, non. Ou non.
La situation actuelle fait que il y a une situation qui est difficile et dont on ne sortira pas si il n'y a pas un effort de chacun. Il faut louer Anne Hidalgo d'avoir fait l'effort. Moi, je crois que c'est normal parce que soyons clairs, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la croissance ? Quelle stratégie de croissance ? Ou c'est la décroissance ? Quelle est notre ligne sur la République ? Est-ce qu'on peut clarifier aussi les choses sur la politique nucléaire et énergétique ? Vous savez, si avec François Hollande, entre 2012 et 2017, nous avions fait la loi sur la transition énergétique, François Pupponi s'en souvient très bien, les écologistes l'ont votée, elle était bonne, elle réduisait le nucléaire à 50% de notre mix énergétique en développant les autres énergies renouvelables.
Elle est réaliste.
Elle est réaliste, on peut l'adapter.
Écoutez,
nous devons parler aujourd'hui. La gauche, elle doit se rassembler, elle doit s'adresser aux Français. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat qui vont venir. Le prix de l'énergie va augmenter. Il faut qu'on ait des réponses solides pour les Français.
Je reprends votre image de la table. On s'assoit à table. Pourquoi est-ce que, avant chaque présidentielle, dans ce genre de cas de figure, on veut d'abord créer une incarnation et ensuite parler du fond. Je reprends votre image de la table. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas du fond? On prend Jadot, on prend Taubira, on prend Hidalgo, on prend qui vous voulez, ils se mettent autour de la table, ils discutent du fond et ensuite...
Nous sommes tout à fait d'accord.
On fait...
Et c'est un peu le sens.
On choisit l'incarnation.
C'est un peu le sens de la proposition d'Anne Hidalgo, y compris de le faire publiquement dans un débat ouvert.
Oui, je n'en suis pas sûr.
Mais en tout cas, sur cette méthode, moi, je vous rejoins. Je pense que on est à l'incarnation de quoi? Soi-même. Excusez-moi, hein. On vote pas pour. Il y a des stars de cinéma pour ça. L'idole politique, il est pas là pour ça, et ils sont d'ailleurs crépusculaires très vite. Donc non, on vote pour une incarnation qui incarne des idées. C'est la tête de gondole d'un projet. C'est le point de rencontre d'un ensemble de forces. C'est la tête qui dépasse, mais celle d'un collectif. Et tout l'art de la politique, sous la cinquième du moins, parce que les institutions surdéterminent les choses, c'est incarner quelque chose parce que cette incarnation, elle va sur des idées et un projet.
C'est passé à chaque fois comme ça pour Nicolas Sarkozy
en 2007, pour François Hollande en 2012, et Emmanuel
Macron
en 2017.
Pour avoir connu comment ça s'est passé pour Nicolas Sarkozy, il a pris le parti 2 ans avant de rentrer en campagne.
Il avait un projet, il a incarné des idées.
Il a mis deux ans à construire un projet à travers des conventions thématiques. Il avait une cellule qui était dirigée par Emmanuel Mignon, qui avait recruté parmi des jeunes hauts fonctionnaires qui grattaient. Il y avait des grandes conférences qui étaient aussi délocalisées. Il faisait venir à lui des gens de la société civile. Il a restructuré un parti politique en recrutant de masse des militants. Il était à 370 000 adhérents à la fin de...
Ça a été une très grande machine professionnelle. Ça a été une élection brillante.
Pareil pour François Mitterrand en 1980, qui a été élaboré pendant des années.
Et là, on arrive 4 mois avant, en disant on va faire un débat de télé, comme ça on va faire un programme. Enfin, c'est ridicule.
Louis Alter de Marielle.
J'ai plutôt le sentiment que, plutôt que de vouloir incarner quelque chose pour répondre à une attente rassembleuse, je crois que chez la gauche, la tentation est plus forte de se compter, en réalité.
C'est-à-dire
de combien de compter, combien
c'est ce que je
fait
crains,
Mélenchon, combien voilà. fait Jadot pour les écologistes. Est-ce que les écolos prennent définitivement le pas sur le PS ou est-ce que les scores sont encore équilibrés? Est-ce qu'ils se neutralisent? Voilà, puisque le contexte ne porte pas... Il n'y a pas grand monde qui croit à une victoire de la gauche en 2022, pour dire les choses. On voit que les 4 premiers dans les sondages, c'est Macron, Le Pen, Pécresse, Zemmour. Voilà, et que donc... dans ce moment très compliqué où la gauche cherche à se réinventer, cherche même à survivre d'une certaine manière, la tentation la plus forte peut être de se compter. C'est-à-dire que les écolos disent par exemple au PS, vous voyez bien, on a fait 2 fois plus que vous par exemple, et donc maintenant c'est notre tour.
Pour les régionales, quand Anne Hidalgo demande à sa tête de liste de se retirer, c'était les régionales ou Audrey Pulvar, je ne me trompe pas.
Elle était candidate au premier tour.
Elle était au premier tour, mais au deuxième tour en réalité. Oui, mais elle a
c'est pas pareil, il suffit de faire 10% des exprimés.
Il n'empêche que le deuxième tour, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais Audrey Pulvar n'est plus tête de liste. Elle accepte d'être troisième ou quatrième de la liste. On ne sait pas comment les postes ont été partagés. Donc je vous dis, c'est un peu le retour, c'est cette tentation de retour à la Troisième République où c'est les états-majors des partis politiques ou de ceux qui décident et on ne voit pas ce qui se passe. Il y a une question de transparence. Moi, je trouve ça gênant.
Édouard Dorian.
Paradoxalement, ce que vient de décrire lui aux haltères sur la situation des candidats, et la chose suivante, il y a un paradoxe, c'est que plus tout le monde est à égalité assez bas dans les sondages, plus ça bloque la situation. Parce qu'il n'y en a pas un qui fait la différence, et donc tout le monde a du mal à faire l'effort, à faire le premier pas. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment un vrai dépassement de soi-même. C'est ce qu'a fait, je crois, Anne Hidalgo, c'est ce que propose sans doute aussi Christiane Taubira, qui essaye de bousculer les choses pour aider au rassemblement.
Vous êtes sérieux là ?
Je crois que si à un moment donné, à la fin, on y arrive, ce serait... Non, mais je crois qu'il faut... Vous savez, quand à un moment donné, les gens disent « je suis prêt à discuter, je suis prêt à y compris retirer ma candidature si on se met d'accord sur un socle commun... »
J'envisage d'être candidate. J'envisage d'être candidate, c'est pas j'envisage de me mettre autour de la table et discuter.
Non, mais je crois pas qu'elle ira toute seule. Elle a dit elle-même « je ne serai pas une candidate de plus ».
C'est pas tout à fait clair.
Donc, elle a dit « je ne serai pas une candidate de plus ». Donc, soit j'arrive à rassembler moi, Christiane Taubira, ou soit je suis d'accord pour me rassembler. On commence comme ça.
Quand les Verts disent systématiquement Nous, nous sommes là. Nous avons fait notre primaire. Nous avons venez discuter.
C'est la difficulté.
Venez discuter. Après, on verra. On voit bien que la partie, elle est jouée.
Mais ils ont raison.
Ils ont raison. On sera à leur place, on sera préparés. Donc, soit Anne Hidalgo dit « Je me retire pour Jadot parce qu'a priori, il est mieux placé. » Mais on discute d'un programme parce que ce n'est pas un retrait en race campagne. Mais on discute d'un programme. Et Christiane Taubira dit bah, « Dans ces conditions, je n'y vais pas. » Et ça peut prendre du sens.
Ouais.
Mais il faut qu'elles acceptent toutes les deux d'être derrière celui qui a pris leadership et qui, de toutes les manières, ne se retirera pas. Enfin, je vois mal les Verts, après tout ce qu'ils ont fait, dire « On a fait une primaire, on est en avance, nos idées sont devant, on considère que c'est fondamental et on va se retirer éventuellement, Christiane Taubira, lui, qu'elle est candidate. » Mais ça n'arrivera jamais. Bon, la seule solution, je peux mettre pour Anne Hidalgo et Christiane Taubira, c'est de dire, voilà, mettons-nous d'accord, nous nous retirons, on se met d'accord sur les idées, on vous soutient. Ça peut donner une dynamique. Ça peut donner une dynamique.
Donc, ce n'était pas la peine pour Christiane Taubira de dire, j'envisage d'être candidate.
Sauf si c'est une stratégie pour dire, ben voilà, je suis une de plus, et puis attention, et puis... Mais si c'est effectivement, elle pense qu'en arrivant, tout le monde va se retourner vers elle, elle se trompe complètement. Maintenant, si c'est une stratégie pour dire parlons-nous, s'il faut en arriver par là pour dire parlons-nous, quand on se remémore la vidéo de Montebourg téléphonant.
Ah oui, on avait oublié celle-là.
Aux quatre autres en disant parlons-nous, c'est rappelez-moi. Bon. Et toute la journée, il a attendu.
On ne sait pas s'il n'a pas appelé Christiane Taubira.
C'est une autre manière de le faire de la part de Taubira.
Oui, voilà.
Mais c'est un peu ça. C'est une candidate, ou en tout cas qui envisage d'être candidate, parce que je ne sais pas si Montebourg pourrait être candidat in fine. Il n'est pas à 5%, il n'a pas les parrainages à l'heure actuelle. Donc c'est un peu comme Montebourg, dire parlons-nous, je suis candidate peut-être, mais parlons-nous quand même. Et elle dit un truc important, elle dit je ne serai pas une candidate de plus.
Oui.
Donc c'est-à-dire, il y a une contradiction.
Ça veut dire il y aura un débat.
Elle dit j'envisage d'être candidate, mais je ne serai pas une candidate de plus. Sous-entendu, soit je ne me présente pas, mais on se met d'accord sur une candidature, soit je me présente et puis tout le monde s'efface derrière moi.
C'est une forme de chantage, quelque part, de mettre la pression.
Mais au point où ils en sont, après tout.
C'est des divas, en fait. À gauche, c'est quand même le bal des égos, le bal des divas. Je vais y aller, mais attention, il faut que vous acceptiez de partir. C'est moi. Qu'est-ce que
sinon, je vais tout casser et j'arrive. Mais je pense que c'est contre-productif pour l'électorat. Sincèrement, je pense que vis-à-vis de l'électorat, c'est contre-productif.
Ah oui, c'est désastreux.
Je pense que l'électorat, qui est quand même catastrophé de voir ce qui arrive à la gauche, ne comprendrait qu'une seule chose, c'est qu'il y en ait deux, trois qui disent « Ok, stop, allez, je me retire. Je me retire, il y en a un qui est le mieux placé, c'est comme ça. Bon, ben, on va essayer de se mettre d'accord sur les idées et puis on va le soutenir. Bon. » Ça, je pense que c'est un discours qui peut être entendable et audible pour les électeurs. Mais attention, si c'est ça, pas moi, je vais me présenter le 25 janvier. Les gens, ils ne comprennent plus rien.
On va avoir les fins de mois difficiles, on va avoir les factures d'énergie qui vont augmenter, on voit une faible augmentation du SMIC, et eux, ils se parlent, ils se battent pour savoir qui va avoir...
D'ailleurs, sur le SMIC, vous aurez remarqué que chacun y va pour rehausser le SMIC de plus en plus.
C'est le coût de la vie qui est, voilà, si vous habitez en Paris ou dans sa...
Le pouvoir d'achat, c'est
quand même... Il y a quand même un sujet pouvoir d'achat.
Ouais,
je pense que je vois pas comment la gauche, si c'est une vraie gauche, qui a vocation à gouverner, donc une gauche sérieuse et radieuse, j'espère. Je ne vois pas comment la gauche...
Vous êtes très optimiste, j'ai l'impression, Dorian Sipel.
Bien viser l'idéal, comme dit Jean Jaurès. Mais non, je ne vois pas comment la gauche ne parlerait pas du pouvoir d'achat. C'est quand même la vie des gens, la principale préoccupation. Et nous savons tous que le pouvoir d'achat va être un facteur qui va peser sur cette élection. Nous savons tous que le prix de l'énergie va augmenter. Toutes les projections le montrent. Et il va falloir faire face à ça. Et donc, il va falloir, et en effet, dans la situation actuelle, on sort des gilets jaunes, c'est pas terminé, la pandémie a un peu étouffé tout ça. Donc, il y a un sujet vie digne. Il y a beaucoup de Français qui travaillent et qui n'ont pas accès à une vie digne, ne peuvent pas gagner suffisamment par le fruit de leur travail. La gauche, c'est d'abord quand même le travail et le fruit du travail. Et donc, je crois qu'il y a un moment où il va falloir, quel que soit le président, et je voudrais que la gauche le prenne en charge. Anne Hidalgo, d'ailleurs, on a parlé de dialogue social très important qu'elle lancerait. Il faut se fixer des objectifs d'augmenter le pouvoir d'achat et le revenu des Français avec des discussions sociales dès l'élection faite. Il faut quand même qu'il y ait un nouveau partage des richesses que ça ne concerne pas que le SMIC. Le SMIC sert à tirer un petit peu.
Vous avez aujourd'hui Yannick Jadot qui présente notamment une mesure
phare. J'ai vu.
Voilà, un SMIC à 1 600 euros net, donc ça fait 125 euros de plus par mois, voilà, qui soit porté à 1600 euros net d'ici à la fin du quinquennat en 2027. Hein, donc, pas tout de suite. Et aussi, autre mesure phare, dégeler le point d'indice, le fameux point d'indice des fonctionnaires dont on parlait dimanche dernier avec Amélie de Montchalin.
Sincèrement, moi, je suis très inquiet de l'état du pays. Et quel que soit qui gagnera l'élection présidentielle, on a 5 ans devant nous qui vont être terribles.
Ah, bien sûr.
Le taux d'endettement n'a jamais été à un tel niveau. Le déficit est massif. L'inflation est présente.
Et donc, la crise du logement.
Cette année, on n'aura jamais aussi peu construit.
Ah oui,
aussi peu construit. Bon, pour relancer, il faut un peu de fiscalité, il faut un peu de moyens pour aider, y compris pour l'acquisition du foncier, parce que c'est le coût du foncier qui est très cher. À la fois, on ne veut pas d'étalement urbain, mais on veut du logement, on ne veut pas payer d'impôts. Voilà. Et donc, à un moment, celui qui prend ou celle qui prendra le pays dans 4 mois aura une gestion très compliquée avec un pays qui est fracturé, un pays qui est en crise. Bon. Donc, on peut faire toutes les promesses que l'on veut sur le SMIC à 2000 euros, sur le relais. On peut y aller, c'est open bar. Après tout, on peut dire, pour le quoi qu'il en coûte tout le temps. Mais à un moment, imaginons ce qui va nous arriver lorsque les taux d'intérêt vont remonter un peu.
Mais quand même, on ne peut pas dire, François Pupponi, de toute façon, mesdames et messieurs, ne comptez pas sur une amélioration de votre pouvoir d'achat pour les 5 ans qui viennent. Ah, je veux dire, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible.
Mais la question, c'est comment
tu fais ? Il faut trouver des solutions, faire des efforts, je suis d'accord sur
les
questions.
On a vécu à crédit et on a explosé la dette.
Ça peut pas être l'infini, mais il faut des discussions.
Vous parlez du pouvoir d'achat, ça nous amène directement à notre prochain sujet, puisqu'après la pause, nous parlerons de cette grève à la SNCF. Grève éclair, pourquoi ? Parce que la direction a pris de court les centrales syndicales et a donné la prime le plus rapidement possible, ce qui fait que la base a dit « bah nous, on prend la prime et on fait pas grève ». À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Europe Soir Weekend avec tout à l'heure à 19h30 l'intervention de Jean Castex que nous suivrons, nous tenterons de suivre puisque ça sera la fin du Conseil de défense sanitaire. On verra ce que le gouvernement a prévu ce soir. Autour de la table, l'essayiste Jeannette Bougrabe, Louis Osalter de Marianne, le député du Val-d'Oise François Pupponi et Édouard Rien-Sipel du Conseil national du PS. C'est l'histoire d'une grève qui aura duré moins de 24 heures et là où les ténors de la CGT et de Sudrail pensaient entreprendre un bras de fer en bloquant le trafic TGV de l'axe sud-est tout le week-end, la direction leur a coupé l'herbe sous le pied, la base des cheminots préférant prendre les 600 euros plutôt que d'occuper les voies par un temps de décembre. Il n'empêche, le trafic est resté très fortement perturbé ce vendredi malgré la levée de cette grève. La compagnie n'a pas eu le temps de s'organiser pour remettre des rames en place. La moitié des TGV de l'axe sud-est a donc été supprimée. 100 TGV en moins, 50 000 clients restés à quai. Retour à la normale prévue demain. C'est assez inédit cette grève qui se termine aussi vite parce que la base a tenu tête donc au cadre en disant bah, « Vous savez quoi, nous on va prendre la prime et on va pas faire une grève qui va durer des semaines, Louis Osalter. »
Oui, la CGT Cheminots, le bras de fer portait donc sur le montant de la prime qui devait être accordée, qui était réclamée depuis un certain temps. La SNCF dit d'accord pour cette prime. La CGT Cheminots, oui, non, mais en fait, nous, on veut plus que la prime prévue. Cette fois, et là, c'est là que c'est tout le génie ou la négociation, les tactiques de négociation et de pression. Là, cette fois, la direction de la SNCF dit non et rend public l'affaire en disant « nous n'irons pas plus loin, c'est inacceptable ». Et derrière, effectivement, c'est la base de la CGT Cheminots qui dit à ses dirigeants « non mais prenez la prime en fait, on va pas être jusqu'au budiste ». Et je pense que c'est assez inédit, c'est aussi assez inédit que les dirigeants de la SNCF aillent publiquement au conflit. En général, ils essaient de régler ça
en interne.
Et là, en fait, je pense que la base des cheminots a été tactiquement plus affûtée que les cadres de la CGT parce qu'ils ont bien vu l'énorme rejaillissement sur l'image des cheminots que provoquait cette grève de dernière minute. Parce qu'en plus, certains des usagers peuvent avoir des sympathies ou comprendre certaines revendications des grévistes, ça peut arriver.
C'est vrai, mais on les interroge et souvent ils disent ça.
Hein. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en solidarité parce qu'eux-mêmes, en plus, ont une situation pas évidente.
Exactement.
Ils pensent qu'il ne faut pas abandonner l'exercice des droits sociaux. Le problème, c'était la forme. C'était, un, de le faire en plein départ en vacances et deux, de le faire à la dernière minute. Donc ça se solde par cette histoire qui a été gérée d'une certaine façon des deux côtés, mais c'est vrai que la tactique était curieuse. Je parle pas sur le fond des revendications, je parle uniquement sur la tactique, le fait de déclencher une grève de dernière minute, ça aurait rejailli sur l'image des cheminots à un moment où en plus l'ouverture à la concurrence se fait par un opérateur italien entre la liaison Paris-Milan
avec des prix très agressifs.
Passant par Lyon, ouais. Avec des prix très agressif. Mmh. Donc il y avait aussi cet enjeu-là au même moment.
Oui, mais on peut pas. Moi, je trouve que ce qu'on oublie, c'est la raison d'être du service public et la raison qui était du monopole, c'était la continuité. C'est-à-dire que les services sont des services d'intérêt général et donc par conséquent, ils doivent fonctionner quoi qu'il en coûte. Voilà. Et d'une certaine manière, en réalité, depuis un certain nombre d'années, on oublie les règles qui font qu'on a constitué des services publics, qu'on a privatisé notamment les transports ferroviaires, puisqu'avant ça appartenait au privé, mais que c'est un coût. Et qu'en réalité, ils donnent des arguments à l'ouverture au marché, en fait. C'est ça qui est triste. Voilà. Et de le faire, effectivement, juste au moment où après les gens ont été confinés, n'ont pas vu leur famille, on leur a dit, etc. C'est laid. Enfin, voilà, c'est laid. C'est pas... Et quand les gens, on sait très bien... Enfin, la prime qu'on a pu donner de 100 euros pour que les gens puissent payer leur facture d'énergie. Et là, c'est quand même assez conséquent.
Le chèque énergie.
Là, c'est quand même conséquent. 600 euros et 300 euros, c'est quand même énorme.
Oui,
et donc, je pense que ça donne une très, très, très mauvaise image.
À la fois, ça donne une très mauvaise image, parce que pour les Français, c'est surréaliste. Bon. Mais attention, ce n'est qu'un début. À partir du moment où on a dit... le quoi qu'il en coûte, et on l'a trouvé, parce qu'il y a 2 ans avant le Covid, chaque fois qu'il y avait une revendication salariale, on n'a pas les moyens, il faut être à 3% de déficit, ça n'est pas possible, le taux d'endettement. Et puis du jour au lendemain, avec le Covid, c'était open bar. Et accessoirement, le gouvernement, il faut qu'il y fasse attention, parce que, et le président de la République, distribue les milliards. On a donné aux enseignants, on a donné aux infirmiers, dans des conditions qu'on peut comprendre d'ailleurs, pourquoi on le fait. Et donc tout le monde se dit, maintenant c'est mon tour, moi aussi je veux avoir. Puisque quoi qu'il en coûte, on a trouvé de l'argent, j'en veux. Bon. Et donc le risque pour notre pays, au-delà du gouvernement dans les mois qui viennent, le risque c'est les revendications catégorielles de dire nous aussi on veut notre part. Voilà. Puisque l'argent il est gratuit et puisque ça coule à flot, eh ben on veut notre part.
Et c'est là où ça va être. Vous avez peut-être lu la tribune où le PDG de la SNCF dit que pour payer les salaires il va falloir emprunter.
Ils doivent 10 milliards donnés par. Donné par le contribuable. On donne quand même à la SNCF des voix. Ils sont endettés comme ils n'ont jamais été. Et l'État renfloué, ils perdent de l'argent tous les ans. Et les salariés disent tant pis. De toute façon, vous n'avez qu'à emprunter, c'est à taux zéro. Et donc,
C'est un désastre parce qu'en réalité, quand on parle de services publics, donc il y a le principe de continuité. Et ce qu'on constate aussi, c'est. Les fermetures des lignes, c'est qu'en plus, il y a la continuité temporelle, mais il y a aussi la continuité spatiale. Et en réalité, dans beaucoup de territoires aujourd'hui, les lignes, en réalité, ont fermé. Donc, les gens ne voient plus réellement ce qu'est le service public. Quand vous êtes dans zone rurale, quand vous êtes dans...
Mais on n'a jamais réussi à faire la continuité du service public. Ça a été un grand débat et on n'a jamais fait le service minimum. Alors,
Mais ce que je trouve désastreux sur la question de la SNCF, c'est... On a transféré aux régions un certain nombre de lignes, etc., qui étaient pour maintenir en tout cas une desserte territoriale, etc. Mais je trouve qu'on est en train de perdre l'idée de ce que l'on se faisait du service public. Voilà.
Eduardo Riancipel.
C'est vrai que cette grève était assez incompréhensible. Et d'abord, pour la base des cheminots, y compris de la CGT, il y a comme un retour du réel. À un moment donné, il y a une situation, il y a une direction qui propose 600 euros au l'heure. Elle était assez incompréhensible. Je crois que ça nous oblige les mouvements syndicaux, à s'interroger sur les modalités d'action. On ne peut plus faire les choses comme avant. Avant, une direction pouvait avoir peur, craindre un blocage de son réseau ferroviaire. Et face à ça, pouvait sous cette pression, évidemment, agir. La grève, elle est toujours utile, c'est un droit constitutionnel, attention.
Oui. La grève, elle est toujours utile.
Elle peut toujours être utile.
Elle peut toujours être utile.
Mais il faut savoir quand la déclencher. On ne rentre pas dans un rapport de force directement avec la dissuasion nucléaire. Il faut graduer les choses. Et toute l'intelligence, l'habileté d'un dirigeant syndicaliste, c'est de bien sentir les choses. Je pense qu'il faut qu'ils inventent aussi de nouvelles modalités d'action, notamment beaucoup plus intéressante, beaucoup plus médiatique, sans nécessairement bloquer les réseaux, jouer sur le sentiment de communion avec les citoyens. Je rappelle que les Gilets jaunes, quand ils ont démarré, il y avait 80% des Français qui étaient d'accord avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent la réalité des gens. Mais ensuite, que ça tourne en violence, que ça tourne en blocage, etc., ça, ils ne pouvaient pas être d'accord. Mais ils ont toujours été d'accord pour dire « Ah bah oui, si les gens souffrent et qu'ils travaillent, ils ont besoin et ils ont le droit à une vie digne ». Vous veniez de le rappeler, je voulais vous le dire ça tout à l'heure aux haltères. Vous rappeliez que il y avait un assentiment positif de la part de la population qui peut comprendre les revendications, mais à eux, du coup, de bien utiliser
le capital sympathie,
ce capital sympathie, cette communion qu'il y a avec les Français, qui comprennent les situations sociales difficiles, mais à eux d'être innovants, je dirais, dans l'action sociale. On voit très bien qu'il faut innover en politique, qu'il faut créer des choses nouvelles, qui ne sont pas obligées de bloquer le pays.
Non, mais on est dans
comment est-ce qu'on peut... On est dans la société médiatique aujourd'hui, totale. Il y a des moyens nouveaux. Moi, je suis toujours frappé en France par souvent l'inventivité dans les mouvements sociaux.
Mais je pense qu'il faut
investir là-dessus si on veut être efficace.
Non, mais juste un point. Enfin, c'est le problème, quand on voit les élections professionnelles, c'est le taux de participation. Aujourd'hui, c'est la question de la représentativité des syndicats. Et donc, du coup, moi, je veux bien qu'ils soient inventifs, mais déjà, ils n'arrivent pas à recruter. Donc, c'est un peu comme les partis politiques.
Est-ce qu'on arrive au bout d'un modèle, c'est-à-dire
Par exemple,
au bout d'un modèle,
oui, bien sûr.
Non, mais dans certains, juste dans un certain pays, pardonnez-moi.
François Pupponi, est-ce qu'on arrive à la fin d'un modèle?
Moi, je pense qu'effectivement, on arrive à la fin d'un modèle. Parce que, d'abord, le monde a changé, les salariés ne sont plus les mêmes. On est passé par une crise de Covid qui a changé beaucoup de choses. Et effectivement, ces syndicats ne représentent qu'une infime minorité des salariés de notre pays. Et donc, il faut, on a le même problème au niveau politique quand on voit les taux de participation. C'est-à-dire que les corps intermédiaires ne sont plus représentatifs des gens qui doivent... Et ça, c'est un vrai problème institutionnel, démocratique.
C'est en ça que c'est inédit.
C'est inédit, mais il faut qu'on arrive à...
Mais d'ailleurs, je rappelle que la CFDT aujourd'hui est passée devant. Et ce n'est pas un hasard. C'est dans les élections professionnelles. La première organisation syndicale, c'est celle dirigée par Laurent Berger. C'est pas un hasard.
CFDT.
Parce qu'ils sont capables de faire des... bon, c'est le cas aussi de la CGT, faut pas caricaturer, parce que la vérité des syndicats, c'est qu'ils négocient tous les jours dans les entreprises. L'activité syndicale, c'est de la négociation, c'est de l'obtention de résultats, mais tout ça, c'est invisible. Et ça aussi, je crois qu'il faut le rappeler, mais c'est une bonne méthode pour, je crois, asseoir un bon dialogue social.
C'est pour ça qu'il y a des élections, d'ailleurs.
Et quand il y a plus de représentativité, ça marche. C'est le cas à la SNCF. Il y a quand même plus de participation et plus de taux de syndicalisation à la SNCF. Et ça leur permet de faire valoir leurs droits. Mais je pense qu'il y a un problème spécifique à la SNCF. Parce que Jeannette Bougrat parlait de la continuité du service public. Mais on ne demande plus à la SNCF d'être uniquement un service public. On lui demande aujourd'hui d'être une société qui doit affronter d'autres sociétés privées, de se soumettre à la logique de la concurrence, et en même temps d'assurer les petites lignes non rentables, d'assurer le service public en tant que tel sur tout le territoire national, alors que les opérateurs privés, eux, peuvent aller choisir les tronçons sur lesquels ils vont présenter un projet pour choisir les plus rentables.
Là, je serai en désaccord.
Donc moi, je pense qu'il y a une crise existentielle à la SNCF, au-delà des revendications salariales, des revendications sur le statut du cheminot, etc. Je pense que les personnels de la SNCF sont quand même pris dans cette contradiction et ce tiraillement, cette injonction contradictoire qui consiste d'un côté à demander à cette société à laquelle tous les Français sont attachés d'assurer le service public et de l'autre côté de devoir affronter la concurrence et de se mettre dans la même situation qu'une société privée comme les autres, alors que c'est un monopole historique.
C'est le droit communautaire.
Mais les lignes de TER, y a pas, pour le Milan-Paris en passant par Lyon, il y a du monde pour venir concurrencer la SNCF. Mais sur la ligne TER de Charleville-Mézières à Reims, il n'y a personne. Il
n'y
aura personne. Ce sont des trains du quotidien qui ne sont pas remplis mais qui sont assurés quand même. Au nom de la mission du service public. Et ils sont subventionnés et c'est tout à fait normal. Mais la SNCF, à mon avis, il faut absolument. On n'a pas questionné assez cette ouverture de la concurrence que tout le monde semble trouver normal.
Sur les grands réseaux, ça fait quand même quelques années que c'est la transposition d'une directive communautaire. Donc, de toute façon.
Ça n'empêche pas d'en débattre.
Non, bien sûr, mais enfin, maintenant c'est trop tard, puisqu'il y a des transpositions.
Non, c'est jamais trop tard en politique. Si on fait de la politique, c'est pas parce qu'il y a une directive communautaire.
Les Britanniques ont même réussi à en sortir.
Non, mais attendez. Non, je voudrais deux choses. Il y a une tradition spécifique à la SNCF d'adhésion en fait aux syndicats, et on voit bien la question de la CGT, c'est la montée en puissance de Sudrail en fait. Voilà, et donc ils sont dans une espèce de surenchère, La deuxième chose, c'est que dans les pays anglo-saxons, c'est l'appartenance syndicale est une obligation, ce qui oblige en fait, ce qui te permet d'avoir une meilleure représentativité. En Belgique, il y a l'obligation du droit de vote. Il y a la close shop en fait dans les pays anglo-saxons.
Et en Allemagne, c'est la culture.
Voilà, donc vous oui, mais ils sont co-gestionnaires. Ils appartiennent dans les conseils d'administration.
Chacun son peuple, hein.
Je vais y arriver. Non, la seule chose que je trouve hypocrite, c'est que dans ce cas-là, il faut aller discuter à Bruxelles. Et que de l'autre côté, à Bruxelles, on dit oui, pas de problème, on ouvre à la concurrence, l'énergie, l'eau, etc. Et après, on dit, quand on est à Paris, on dit ah non, mais c'est la faute. Donc il faut être.
Il y a un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, Bruxelles, qui a quand même une vision très libérale de tout cela, est en train de réglementer et d'essayer de mettre à mal, pour des raisons de libéralisme, toutes les DSP, toutes les, les délégations de service public.
Moi, j'en connais une partie.
Moi, j'en connais une particulièrement, celle qui permet aux Corses d'avoir en bateau ou en avion des bateaux tous les jours et des avions tous les jours pour permettre d'avoir cette continuité territoriale, mais avec des subventions publiques phénoménales, très importantes.
Oui.
Bruxelles est en train de la remettre en cause, en disant, bah non, après tout, laissons faire la concurrence. Mais si on, dans un cas comme ça, si on laisse faire la concurrence, c'est sûr que l'été, quand il y a plein de monde, les bateaux seront là, mais au mois de février...
Et là, bonjour les prix, il n'y a plus de TER.
Mais au mois de février, il n'y aura plus. Bon, et donc, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on veut maintenir un service public avec, quel que soit l'endroit du territoire national, une possibilité de se déplacer ou pas? Et ça, c'est les problèmes, effectivement, qui sont liés à Bruxelles.
Alors, François Pipponi...
Très court, parce qu'on manque de temps.
C'est précisément cette logique-là qu'il ne faut pas laisser prendre le dessus. Il faut combattre cette logique qui est une logique totalement libérale. Il y a une logique européenne, je pense. Je ne dis pas qu'il faut renverser comme Mélenchon du jour au lendemain les institutions européennes. Mais il y a quand même une logique que l'Europe doit aujourd'hui stopper à la faveur de deux réalités. La crise financière de 2008 qui a quand même frappé l'Europe et qui, à mon avis, devrait permettre de modifier ou d'ajuster son logiciel. Et d'autre part, aujourd'hui, la crise avec la pandémie qui oblige justement l'intervention des États et la Banque Centrale Européenne est au rendez-vous. Je pense qu'il faut penser le futur de notre SNCF sans tomber dans le pur régime simplement de la concurrence. On a raison de se battre et il faudra en effet, Jeannette Bougrabe, aller à Bruxelles le discuter. Pourquoi ? Parce que la SNCF, elle doit réfléchir aussi aux nouveaux usages.
Conclusion.
Elle doit réfléchir à comment inventer les transports du futur. Et on ne peut pas tout régler par la logique libérale et du profit, de la concurrence à tout va. C'est pas possible,
Eduardo,
il faut des services publics.
Rian Sipel, François Pipponi, Louis Osalter, Jeannette Bougrabe reviennent juste après le journal de 19h. On entendra l'appel poignant de Francis Palombil, représentant des commerçants, habitué des plateaux télé. Il nous est apparu ce matin totalement dépassé par le Covid qu'il a contracté. Interrogé à la télévision de l'hôpital où il est encore en réanimation, il a appelé tous les non-vaccinés à ne pas faire la même erreur que lui et justement à se vacciner. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Suite des débats d'Europe Soir, ça sera juste après le journal présenté par Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Tous.
Il est 19h. Fin du Conseil de défense sanitaire à l'Élysée. Jean Castex s'exprime dans une demi-heure. On sait déjà que les autotests seront gratuits pendant les fêtes pour les vacciner.
Elle envisage de se présenter à la présidentielle. Christiane Taubira prête à se lancer dans la bataille pour tenter l'unité de la gauche. Le procès des attentats de novembre 2015, l'ex-patron de la sécurité intérieure face au tribunal et cette question, aurait-on pu éviter ces actes terroristes? Rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur Europe 1, l'interview exceptionnelle de Didier Deschamps à 20h et puis un cocorico, les handball françaises viennent de se qualifier face au Danemark pour la finale du championnat du monde 23 à 22.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, c'est ensoleillé demain, passer les bancs de brouillard dans les plaines et vallées du Nord, parfois tenaces par endroits toute la journée, des gelées entre le sud-ouest et le centre et du très beau temps sur le sud et la façade ouest.
Météo complète en fin de journal. Le Conseil de défense sanitaire qui se tenait autour d'Emmanuel Macron aura donc duré un peu plus de 2 heures. Il est maintenant terminé.
Et les informations filtrent au compte-gouttes. Le Premier ministre Jean Castex en dira plus puisqu'il doit prendre la parole à 19h30 depuis Matignon. Mais d'ores et déjà, Yasmina Katou, vous pouvez nous annoncer une première mesure.
Oui, le gouvernement s'apprête à annoncer la gratuité des autotests du 20 décembre au 2 janvier, donc pour la période des fêtes. C'est ce qu'a dit le principal syndicat de pharmaciens. Un remboursement sous plusieurs conditions. L'assurance maladie prendra en charge ces autotests uniquement pour les personnes vaccinées. Chaque personne qui souhaite en bénéficier pourra obtenir 2 tests maximum. S'il vous en faut plus, ça sera à votre charge. Une autre mesure devrait être annoncée par Jean Castex. Si vous revenez d'un voyage depuis un pays européen, vous n'aurez pas besoin de présenter le résultat d'un test négatif avant de fouler le territoire français. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron cette nuit à l'issue du Conseil européen à Bruxelles. Et l'hypothèse d'un confinement ou d'un couvre-feu a été totalement évacuée par Olivier Véran hier. Enfin, on saura précisément de quoi parlait Gabriel Attal. Avant-hier, le porte-parole du gouvernement évoquait des annonces sur un renforcement aux frontières, une accélération de la campagne vaccinale et enfin des recommandations claires pour passer les fêtes sereinement. Réponse donc dans moins de 30 minutes maintenant.
Yasmina Katou, le gouvernement ne devrait pas faire d'annonce concernant la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans.
On sait qu'Emmanuel Macron est pour. Aujourd'hui, le comité d'éthique a donné son feu vert, Céline Géraud, mais deux autres instances doivent aussi se prononcer.
Effectivement, le gouvernement attend désormais l'avis de la Haute Autorité de Santé, et ce sera lundi à 14h, mais aussi celui du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale pour lancer cette campagne. En attendant, le comité d'éthique a statué en mettant en avant le bénéfice individuel de l'enfant et le bénéfice collectif, le bien-être psychologique, social, éducatif pour éviter les fermetures de classe. Et puis, c'est indispensable, disposer des données de pharmacovigilance des pays qui ont déjà vacciné un grand nombre d'enfants de 5 à 11 ans avec deux doses. C'est le cas des États-Unis depuis le 3 novembre dernier. Pour Alexandra Benaki, membre de ce comité consultatif d'éthique, il y a un gros travail de pédagogie à mettre en place.
Si la couverture vaccinale est de 20%, on pourrait réduire au moins de 40% le risque d'infection des enfants. Donc même si on arrive à obtenir un petit pourcentage de vaccination, il y aurait déjà un bénéfice. Mais de toute façon, les enfants qui sont vaccinés maintenant ne vont pas limiter la cinquième vague. Ils vont permettre de limiter la sixième vague.
On le rappelle, la vaccination n'est pas obligatoire et le sujet divise puisqu'un sondage ELAB révèle que 7 parents sur 10 qui ont un enfant dans cette tranche d'âge y sont opposés.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe. Hein.
En attendant, dans les hôpitaux, la situation est de plus en plus tendue à l'approche des fêtes et on apprend ce soir que des évacuations sanitaires ont commencé.
Oui, en région PACA, deux patients de Marseille ont été hospitalisés en Bretagne. L'un d'eux a quitté la réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. Écoutez le docteur Julien Caravelli qui travaille dans ce service.
Le transfert du patient a eu lieu dans notre service, la réanimation de la Timone, à la réanimation de Saint-Malo. On a besoin absolument de pouvoir libérer des lits pour prendre en charge tous les patients Covid et non-Covid. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un manque de place qui s'accentue là de manière rapide ces derniers jours et qu'on a absolument besoin de pouvoir libérer les places. On essaie de le faire en anticipation pour pouvoir admettre en fait tous les patients parce que quand un patient s'aggrave, il s'aggrave en général brutalement et on a besoin de l'admettre tout de suite en réanimation. Donc pour pouvoir le faire, en effet, on est obligé d'anticiper un petit peu. Et comme on est dans l'incapacité d'augmenter pour le moment de manière très importante notre nombre de lits, ben on réalise ce type d'évacuation sanitaire.
Un médecin du service réanimation de la Timone à Marseille. Demain, trois autres patients de la région PACA vont rejoindre l'Île-de-France.
Enfin, les vacances scolaires, moment très attendu par beaucoup d'entre vous. Malgré toutes les craintes sanitaires, encore faut-il arriver sur son lieu de vacances si on prend le train.
Oui, on sait que sur les TGV Sud-Est, malgré la levée du préavis de grève, ça coince sérieusement aujourd'hui. Seule la moitié des trains sont en circulation. À la gare de Lyon, écoutez le reportage de Thibault.
Dans le hall, les vacanciers assis sur leurs valises surveillent le tableau d'affichage. Certains voient le retard de leur train s'accumuler, d'autres espèrent qu'il ne sera pas supprimé. Et les voyageurs s'agacent. Johan, 25 ans, n'imaginait pas que partir en vacances serait si difficile.
C'est compliqué, on m'a annulé mon train hier. On doit payer deux fois plus cher nos billets à cause de leur grève. Je pense que ça embête beaucoup de personnes et qu'on a besoin de vacances. Donc j'espère que ça va bien se passer, il faut être positif.
Mais une fois le train à quai, les voyageurs retrouvent le sourire et se réconfortent. Cette pause de Noël était très attendu pour se changer les idées.
Ça permet de décompresser, couper, ouais. Justement, pas penser Covid et recharger les batteries.
Bah, l'an dernier, on n'a pas eu vraiment de vacances de Noël. Que là, on va prendre du bon temps avec tout le monde, avec la famille et les copains.
Je vais aller dans la montagne, skier, même peut-être faire de la luge. On va décorer le sapin. J'aime trop Noël, c'est un de mes jours préférés.
Et la bonne nouvelle, c'est que le trafic va revenir à la normale ce week-end. Ils devraient donc tous arriver à temps pour les fêtes de Noël.
Thibault, gare de Lyon pour Europe 1. Et si vous préférez la voiture, drapeau orange en région parisienne, dans le sens des départs ce soir, c'est vert ailleurs.
Elle parle d'impasse à gauche. Christiane Taubira pourrait à son tour se déclarer candidate à la présidentielle.
Oui, l'ex-garde des Sceaux de François Hollande l'annonce sur les réseaux sociaux. Elle espère rassembler.
Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
Christiane Taubira envisage d'être candidate, c'est le mot qu'elle emploie. Victor Chabert, qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, c'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. Christiane Taubira donne rendez-vous aux Français à la mi-janvier, comme pour laisser à l'idée le temps d'infuser et de voir la réaction des autres candidats de gauche. Elle précise bien qu'elle ne sera pas une candidate de plus. Sous-entendu, elle veut être la candidate de l'Union, que les autres se rangent derrière elle. Sauf que Yannick Jadot a déjà fermé la porte et Jean-Luc Mélenchon ne se désistera pas. Il pense être le mieux placé à gauche. Seule Anne Hidalgo, qui semble s'être concertée avec l'ancienne garde des Sceaux, se dit ouverte à l'idée d'une candidature commune. La maire de Paris veut une primaire de toute la gauche et propose un débat télévisé aux candidats avant le 15 janvier. Une candidature de Christiane Taubira serait une bonne opportunité pour Anne Hidalgo. Si elle se désiste en sa faveur, c'est une porte de sortie honorable après des semaines de campagne catastrophiques. Christiane Taubira s'est déjà présentée à l'élection présidentielle. C'était en 2002 avec l'étiquette PRG. Elle avait fait 2,32%.
Victor Chabert et réaction de Jean-Luc Mélenchon depuis la Martinique. Battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille.
Ça a le mérite d'être clair. 19h08, vous restez avec nous. Dans un instant, nous irons au procès des attentats du 13 novembre. Et l'ex-patron des renseignements reconnaît un échec pour ses services. A tout de suite.
Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
19h10, la suite du journal d'Hélène Zelani. Les attentats du 13 novembre auraient-ils pu être évités? Aujourd'hui, la parole était à l'ancien patron de la DGSI devant la Cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, Patrick Calvar ne s'était jamais exprimé publiquement jusqu'ici. Il a finalement accepté de répondre aux polémiques et aux critiques sur d'éventuels manquements reprochés aux renseignements intérieurs, Gladys Laffitte.
Ah oui, pourtant, il n'en avait pas l'intention, précise d'abord Patrick Calvar. Tous ces attentats ont été un échec, admet-il. Les mots n'effacent jamais la douleur, mais je veux que les victimes puissent comprendre ce que nous ne pouvions pas faire. Par exemple, déployer de larges moyens de surveillance, rendus impossibles selon lui à l'époque, à cause d'un cadre légal insuffisant. Mais aussi empêcher les départs vers la Syrie, là aussi car il n'y avait pas les moyens coercitifs. En entretien, ils ne nous écoutaient pas et ils avaient un double passeport, précise l'ex-patron du renseignement intérieur. Presque sur la défensive, il insiste aussi sur la porosité des frontières Schengen en pleine vague migratoire et sur l'absence de la biométrie et de l'interconnexion entre les fichiers de police. Avec tout ça, si on contrôlait Abaoud, le coordinateur des attentats, l'interpellation avait lieu. Mais c'est finalement sur les commandos à majorité belge qu'il conclut. Ils arrivent à Paris le 12 novembre, frappent le 13, n'ont pas de base de repli, on n'a aucun point d'accroche. Avant d'avouer fataliste, oui, demain, un autre 13 novembre est possible.
Gladys Laffitte au procès des attentats de novembre 2015.
Presque un an de bagarre franco-britannique sur les licences de pêche de l'après-Brexit. Et aujourd'hui, eh bien, Paris passe à la vitesse supérieure.
La France va en effet demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux contre le Royaume-Uni. Il s'agit d'obtenir de nouvelles licences. Annonce faite à l'issue de la rencontre entre Emmanuel Macron et les représentants des pêcheurs. Puisqu'on parle de rivalité France-Angleterre, les matchs de rugby prévus demain et dimanche dans les deux coupes d'Europe de rugby sont reportés. Conséquence des restrictions de déplacement entre les deux pays.
C'est un entretien exceptionnel que vous pourrez suivre ce soir sur Europe 1. Didier Deschamps dressera le bilan de l'année 2021.
Et oui, le sélectionneur de l'équipe de France répondra à vos questions. Cyril de la Morinerie, vous l'avez notamment interrogé sur la prochaine Coupe du Monde au Qatar.
Oui, c'est l'un des temps forts de cet entretien. Le moment où je questionne Didier Deschamps sur ce mondial qui va donc se dérouler au Qatar. Des ONG ont relevé des atteintes aux droits humains. Il y aurait eu des morts sur les chantiers. Alors j'ai demandé au sélectionneur s'il était gêné d'aller défendre son titre de champion du monde dans ce pays. Écoutez sa réponse.
Je suis un citoyen, un être humain. Je respecte les autres combats sur un plan humanitaire où certains organismes font entendre leur voix. Moi, je suis dans le domaine sportif comme les joueurs. Et à partir de là, c'est pas nous qui décidons, on n'a pas notre libre arbitre, les choses sont décidées et la Coupe du Monde aura lieu au Qatar.
Voilà, les Bleus iront bien défendre leur titre avec Didier Deschamps. Après, rien n'est tranché, hein, puisque le sélectionneur explique dans cet entretien qu'il n'a pas pris encore sa décision quant à la suite à donner à sa carrière. Au micro d'Europe 1, Didier Deschamps évoque également le cas de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat avec le PSG. Partira-t-il au Real Madrid? Il ne m'a pas consulté. De toute façon, il est bien entouré, dit Didier Deschamps. Sur l'actualité judiciaire de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid est toujours sélectionnable. Vous entendrez pourquoi à partir de 20h. Bref, un entretien très riche qui nous donne déjà envie d'être en 2022.
Exactement, Cyril de la Morinerie. C'est donc à 20h sur Europe 1, après l'interview, débat autour de Lionel Rousseau jusqu'à 23h. Je vous le disais en titre, belle victoire pour le hand féminin. Les Bleus se sont qualifiés il y a quelques minutes pour la finale du championnat du monde, 23-22 face au Danemark. Écoutez la fin de la rencontre sur TMC.
Dernier espoir pour le Danemark.
Yes, c'est fini.
23-22, les championnes olympiques sont en finale du championnat du monde. Rendez-vous dimanche, 17h30.
Oui, dimanche, elles affronteront en finale le vainqueur de la rencontre entre l'Espagne et la Norvège. Écoutez, Coralie Lasource, c'est la capitaine de l'équipe de France. Évidemment, elle est aux anges.
On s'est rendu le match très compliqué. On a perdu énormément de ballons. Je pense qu'il y avait de la pression. On savait qu'au bout, il y avait une médaille à chercher. Donc forcément, On était tendus, mais on s'est dit qu'il restait 30 minutes, il fallait tout donner. C'est ce qu'on a fait, mais au final, la victoire, elle est là et c'est ce qu'on va retenir, c'est ce qui est plus beau.
Voilà, la victoire, c'est ce qu'il y a de plus beau, en effet, comme le dit Coralie Lasource, capitaine de l'équipe de France de hand, les championnes olympiques qualifiées pour la finale du Mondial 2021.
Merci, ma chère Hélène Zelani. On passe au temps avec vous, Valérie Darmon, et demain, calme et sec.
Effectivement, et la victoire, c'est ce qu'il y a de plus beau, le soleil aussi. Passer la grosse grisaille sur la moitié nord jusqu'en Auvergne et Rhône-Alpes le matin. Sinon, au programme du très beau temps de la Bretagne, des Pays de la Loire au centre et sur toute la moitié sud. Passer cette fois les habituelles nappes de brouillard tenaces dans les Landes et près de la Garonne, ainsi qu'en vallée du Rhône. Très belle journée aussi en montagne pour tout le week-end.
Les températures ?
Minimale entre moins 2 et 1 degré du sud-ouest au centre, le thermomètre qui descend ailleurs entre 0 et 3, jusqu'à 8 près des côtes de la Manche et de la Méditerranée, les maximales qui seront comprises entre 5 et 9 degrés sur la moitié nord, 10 à 14 sur la moitié sud, jusqu'à 15 sur le piémont pyrénéen et 16 sur les plages de la Côte d'Azur.
Merci Valérie Darmon, on l'a un peu évoqué tout à l'heure dans le journal, les annonces de Jean Castex suite au Conseil de défense sanitaire, c'est à suivre à partir de 19h30, ici même, dans ce studio, avec nos invités. Mais dans un petit instant, on entendra l'appel de Francis Palombi qui appelle tout le monde à se faire vacciner. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec jusqu'à 20h, autour de la table, l'essayiste Jeannette Bougrat, Louis Osalter du journal Marianne, le député du Val-d'Oise François Pupponi et Eduardo Riancipel, membre du Conseil national du PS. Je vous rappelle qu'à partir de 19h30, on suivra les annonces de Jean Castex suite au Conseil de défense sanitaire. Mais c'est vrai que d'abord, on a tous sursauté ce matin quand est apparu chez nos confrères de BFM TV Francis Palombi, le représentant des commerçants qu'on connaît bien, qui a l'habitude de venir ici en plateau à Europe 1, mais aussi sur les plateaux de télévision, était à l'hôpital où il est encore en réanimation, meurtri. Il est apparu très fatigué par le Covid qu'il a attrapé et il a appelé tous les non-vaccinés à ne pas faire la même erreur que lui, laquelle, c'est-à-dire de ne pas être vacciné. Écoutez plutôt.
Vous êtes anti-vax, vous êtes jeune, vous êtes riche, vous êtes beau, vous n'êtes pas beau. Enfin, façon de parler, eh bien, vaccinez-vous. C'est une question de vie ou de mort. J'en appelle à la France entière, j'en appelle à tous les citoyens, j'en appelle à la solidarité personnelle et nationale. Et je vous le dis avec toutes mes tripes, je vous le dis avec toute ma conviction, je vais devenir et je suis devenu un militant, un pro-vaccination à 5000%. Vous avez déjà entendu cette expression, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. J'ai changé d'idée, je ne suis qu'un homme, j'ai eu peur de perdre la vie. La vie, c'est sacré.
Voilà l'émotion de Francis Palombi. Comment est-ce que vous avez réagi, vous quatre, quand vous avez vu Francis Palombi? Est-ce que c'est une bonne chose de lancer cet appel-là, Eduardo Riancipel?
Alors moi, je dois dire que par hasard, il se trouve que j'ai vu ça en direct.
Oui.
Tout à l'heure, ce matin ou ce midi. Et j'ai été frappé, je suis resté stoppé par la puissance du message.
Ouais, il était 11h à peu près.
Et oui, parce que c'est toujours d'une tristesse ravageante de voir des gens qui viennent vous dire « Eh oui, je me suis retrouvé à l'hôpital parce que je ne me suis pas vacciné et maintenant... j'ai enfin compris.
Est-ce que ça peut convaincre?
Oui, je veux que ça oui, je crois que ça peut convaincre, parce que là, on a une image qui est extrêmement forte. Alors, c'est un peu la figure du repenti ou du converti. On peut s'en amuser, décrypter, etc. Peu importe. Je crois que ça doit nous rappeler simplement quelque chose de très solide, de très simple, qu'il faut matraquer tout le temps. La meilleure façon de se protéger soi-même et de protéger les autres et de revenir à une vie un peu normale en France et partout dans le monde, c'est de se vacciner, parce que ça vous protège contre les formes graves, ça vous empêche au maximum d'attraper le virus. Alors ok, il n'y a pas 100%, mais
il y a 90 à peu
mais
près,
il y a quand même beaucoup de chances de se protéger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois que vraiment...
Mais est-ce que ça fera plier, j'allais dire, les réfractaires les plus durs qu'on voit encore tous les samedis, ici, là, au pont Mirabeau, venir avec des drapeaux tricolores en disant « le vaccin, c'est un poison », etc.
Non, les 5 millions de personnes qui n'ont pas encore un vaccin, je pense qu'on peut tirer beaucoup de gens. Je crois vraiment que c'est un message important, c'est le discours de la raison. Il faut arrêter de raconter des bobards aux gens. Il y a des milliards d'êtres humains qui sont vaccinés. Il n'y a pas d'entourloupe, ça protège, c'est vérifié, c'est prouvé. faut le faire.
François Tuffoni.
Non, moi je suis catastrophé de... Je rencontre régulièrement des gens que je connais, hein, qui sont des amis, qui ne veulent pas se faire vacciner.
Voilà, et vous leur dites quoi?
Je leur dis, mais qu'ils marchent sur la tête, que c'est complètement fou, que voilà, que...
Faire le vous vaccin. Avez envie de leur montrer Francis Palombi, les images?
Oui, mais vous savez, ils en ont vu des images comme ça.
Et alors?
Mais ils disent, ça arrive aux autres, moi ça ne va pas m'arriver.
Parce que, oui,
parce que quel intérêt de ne pas se vacciner? Quel intérêt de ne pas se vacciner? Puisqu'on on voit, parce que M. Palombi, bon, c'est bien sûr que c'est très émouvant, mais... Lui, il en a vu des images de gens qui étaient à l'hôpital, sur l'hôpital, en disant « Ne faites pas comme moi, vaccinez-vous ». Il n'y a pas cru, puisqu'il ne s'est pas fait vacciner. Donc, ceux qui sont il y a ceux qui sont réfractaires pour des raisons idéologiques, et puis il y a ceux qui ne savent pas pourquoi, et puis ils n'ont pas envie, et puis ils ont peur, ils entendent tout. Donc, ils franchissent pas le pas.
C'est le fameux « il faut attendre l'accident pour mettre un rond-point ».
Complètement, complètement. Et il y en a plus qu'on ne le pense. Hein.
Jeannette Bougrabe.
Je pense que c'est très courageux et c'était très touchant et parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de d'abnégation pour aller témoigner comme il l'a fait en sortant de réa. Donc il n'est pas encore sorti totalement d'affaire parce qu'il y a de la rééducation derrière. Et donc je trouve qu'il s'est mis en risque en témoignant en fait ainsi, parce qu'on sait très bien qu'il va être l'objet d'agressions sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en lui disant que... Voilà, parce que les antivax sont très, très, très virulents. Mais c'est vrai, moi aussi, comme François, je connais des gens qui ne se vaccinent pas. On a quitté le champ de la raison. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les arguer. Vous pouvez essayer. En plus, c'est des gens qui sont relativement jeunes. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des études et qui vous expliquent qu'il y a toujours qui connaissent quelqu'un qui a fait un AVC ou je ne sais trop quoi. Et donc, on a quitté le champ de la raison. Donc, c'est un mur, en fait. Moi, c'est ce qui me surprend, c'est que dans un pays cartésien où les gens sont très éduqués, vont à l'école...
François Pucconi, c'est-à-dire que Francis Palombi, lui-même, il a vu, il y avait eu, je me souviens, une de Libé il y a quelques mois, maintenant, il y a longtemps... Avec justement des tas de témoignages, de repentis, comme on les appelle, en disant bah « Ben oui, j'ai enfin vu ce que c'était ». Louis Osalter de Marianne.
Oui, moi, justement, ça, c'est un appel à l'émotion. En fait, on n'est plus dans la raison avec ce genre d'appel.
Ça marche pas. La raison ne marche pas.
Oui, mais Jeannette Bougrabe dit si la raison marche pas, est-ce que l'émotion marchera?
Non, mais je pense que ça marchera pas non plus. Non. Alors, je réponds à votre question. Oui, vous avez raison. Je réponds à votre question. Je pense que ça marchera pas non plus chez les plus réfractaires dont vous parliez. Parce que il y a beaucoup de gens, c'est pas parce qu'ils voient quelque chose sur BFM ou une autre chaîne info qu'ils le croient, malheureusement.
Ou sur CNews.
Non, mais il y a plein de gens qui sont dans une défiance généralisée.
Oui, non, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'ils vont pas croire une personne pour la simple raison qu'elle est derrière l'écran et qu'ils ne croient pas ce qu'il y a sur l'écran. Ce qui les empêche pas de regarder l'écran toute la journée, évidemment. Et puis moi, si vous voulez, je suis un peu gêné par le recours permanent à l'émotion, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le gouvernement aussi essaye beaucoup maintenant de gouverner cette crise par l'émotion, en dramatisant, en jouant sur...
C'était le cas lors de l'interview du président, justement,
laquelle?
Cette semaine.
Oui, alors moins celle sur TF1, j'ai trouvé, parce que quand il parlait de la vaccination des enfants, il essayait un peu de... Il préparait les esprits quand même, vous voyez qu'il alignait les arguments pour préparer les esprits. Moi, je pense que c'est presque moins le président qui a dramatisé que la façon dont le gouvernement a orchestré ce comptage quotidien des contaminations, mettre en scène des courbes épidémiques, alors que franchement, la situation n'est plus la même qu'il y a un an et demi. Un, on connaît mieux le virus. Et deux, on sait qu'une contamination n'est plus aussi dangereuse qu'avant, précisément parce qu'il y a le vaccin.
Oui, mais ça, vous savez, c'est l'effet miroir, Louis Osalter. C'est-à-dire que s'ils ne le faisaient pas, on leur reprocherait de ne pas le faire.
Je sais, et je le regrette.
C'est pas que français, d'ailleurs, c'est universel.
Et je pense que ce mode de traitement dramatisant, il est politique, mais il est aussi médiatique. Parce que c'est comme une série, ce virus. On en a déjà plusieurs saisons, malheureusement. Mais ça se suit comme une série. Et à partir de là, la dramatisation permet de produire l'image, de dramatiser l'événement.
Mais ils disent 4 000, quand Gabriel Attal dit que d'ici la fin d'année, il y aura 4 000 personnes en réa. On se dit que ce n'est pas possible. Donc, évidemment qu'ils sont obligés de dramatiser parce qu'en réalité...
Je le crois volontiers, mais je ne suis pas sûr que la dramatisation marche encore.
Non, mais la seule chose... La seule solution, et je pense, auquel on va aboutir, c'est la vaccination obligatoire. Voilà. Si les émotions ne marchent pas, si les arguments...
On y est quasi.
Depuis le début. Moi, je suis depuis le début de cette crise en faveur de la vaccination obligatoire. Parce que de toute façon, c'est un peu le cas avec le pass sanitaire. Le pass sanitaire a vocation à vous obliger
Mais vous vacciner.
Il y a des faux passes.
Oui, mais ça, c'est pour ceux qui trichent. Hein. Mmh. La règle, c'est bah quand oui, même de ne pas tricher.
Et Olivier Véran a dit qu'il serait prêt à effacer l'ardoise pour qu'ils aillent se faire vacciner.
Pour les reporters.
Bah, c'est pas idiot. Mais
ça vous amuse, Louis.
Non, mais c'est pas idiot.
C'est pareil.
Non, mais c'est ce qui se passe.
C'est pas idiot à un moment donné.
Non, mais c'est ce qui se passe.
S'ils sont attrapés.
Je crois que tout ça est minoritaire et en tout cas, je crois qu'il faut aller vers la vaccination obligatoire parce que de toute façon, et franchement, elle l'est déjà pour beaucoup de gens, pour les enfants, dans certains cas. Donc, on ne rompt rien là-dessus. On s'adapte à une situation et on protège les gens.
Alors, on va voir dans un instant ce qu'annonce le gouvernement en termes, justement, de mesures. On apprend à l'instant que l'Irlande instaure un couvre-feu à 20h pour les pubs et pour les restaurants à partir de dimanche. On pensait que ces temps-là étaient révolus. Ben non, voilà. Couvre-feu, on est dans l'Union européenne. Hein. L'Irlande instaure un couvre-feu à partir de 20h. On verra ce que dit Jean Castex. On le suit dans quelques instants. Vous restez avec nous, c'est Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table, l'essayiste Jeannette Bougrab, mon confrère de Marianne Louis-Osalter, Édouard Dorian Sipel, membre du Conseil national du PS, et le député du Val d'Oise, François Pupponi. Il est 19h31. Et Jean Castex n'est toujours pas là, mais il va arriver. Et comme le disait Yasmine Akatou dans le journal de 19h, on a quand même quelques pistes sur ce Conseil de défense sanitaire. Il y en a une qui tient entre guillemets la corde, c'est la gratuité des autotests qui devrait arriver. Oui, non, bien, pas bien, Louis Alter.
Que ce soit gratuit, oui. Moi, j'ai fait un test aujourd'hui, par exemple.
Autotest en vue de... Vous-même ?
Non, un test antigénique. Et en fait, la pharmacie était débordée. Les professionnels sont débordés. Ils sont débordés à l'hôpital. Et maintenant, ils sont débordés en pharmacie et dans les lieux où
on a 56% de taux en réanimation.
D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez rendre gratuit tout ce que vous voulez. Si le personnel ne suit pas, si on n'a pas les moyens, les effectifs pour assurer un dépistage sérieux de la population, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, ça nous renvoie au triste problème de l'hôpital public qui risque effectivement d'être engorgé au moment des fêtes, à un moment où il y a moins de soignants qui travaillent. J'ai lu d'ailleurs que les hôpitaux cherchaient désespérément du personnel pour passer Noël. En ayant les forces suffisantes pour affronter cette vague. Donc voilà, on retombe sur un problème de niveau du service public, puisqu'on parlait du service public tout à l'heure avec la SNCF. Et ben, l'hôpital, c'est encore plus dramatique. Le niveau de service public pour affronter ces vagues reste préoccupant alors qu'on en est à la cinquième vague.
Je vous donne quelques chiffres avant de vous laisser la parole, Jeannette Bougrab. On a 70 000 nouveaux cas en 24 heures. On a un taux d'incidence de 508 sur 100 000 habitants. C'est en progression de 13%. On a un taux de positivité des tests en hausse de 0,2, donc c'est stable. On a 7042 nouvelles hospitalisations, c'est en hausse de 12%. On a 1662 nouvelles admissions en service de soins critiques, c'est en hausse de 15%. Et on a 890 en décès, c'est en hausse de 26%. Voilà pour les chiffres. Jeannette Bougrab, pardon.
On parlait du service public, mais on oublie des acteurs de proximité qui sont aussi au bord du burn-out, c'est les pharmaciens. C'est-à-dire que les pharmaciens, en fait, aujourd'hui, font vaccine, font des tests. Ils sont peu indemnisés, en tout cas, pour cette mission essentielle et fondamentale. Et d'une certaine manière, on a privatisé, en réalité, ce qui aurait peut-être dû revenir au secteur public. Voilà. Et donc, je pense qu'ils demanderont sans doute une revalorisation des actes qu'ils ont faits. Et on le voit bien, quand le gouvernement leur a demandé « vous devez désormais rester ouvert le dimanche », ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait des problèmes de personnel, parce qu'il fallait recruter et que les indemnités qui étaient données pour les vaccins ou n'étaient pas suffisantes et ne couvraient pas les frais les frais engagés en matière d'embauche de nouveaux collaborateurs.
Quelle est la situation sur le terrain dans le Val d'Oise, justement, dans votre
circonscription ? On a toujours été un département où le taux était très important, parce que dans les quartiers populaires, les gens ne se vaccinent pas, souvent pour des raisons culturelles, des communautés entières qui ne veulent pas aller se faire vacciner.
Quel genre de communauté ?
Je connais très bien, par exemple, la communauté pakistanaise, c'est pas leur sujet, la communauté chaldéenne. Ouais. Les chrétiens d'Orient qui ne veulent pas se faire vacciner pour une grande partie. Bref, des communautés comme ça qui décident de ne pas se faire vacciner. Et alors, les pharmaciens sont débordés, les laboratoires d'analyse médicale sont débordés et tous me disent ça explose, surtout les enfants. On a de plus en plus de cas et donc on voit bien que de plus en plus de gens ne veulent pas se faire tester non plus pour ne pas être confinés et pour ne pas... Et donc ils prennent le risque de dire... Dès qu'il y a des petits symptômes, on continue, c'est pas grave, faut qu'on travaille. Parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de, surtout ceux qui sont vaccinés, de dire bah, si je m'arrête de travailler dans certains territoires,
et certains
c'est extrêmement
dans compliqué. Des restaurants, dans des... Ben, c'est ça.
Ils ne peuvent pas se permettre, souvent dans des conditions à la limite de la légalité pour ne pas dire plus, et donc ils ne peuvent pas se permettre de. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage. Hein. C'est-à-dire que s'ils s'arrêtent, ils seront en maladie, hein, mais ceux qui ne sont pas déclarés, il n'y a pas de maladie. Hein.
Alors, Jean Castex vient de prendre la parole. Dès qu'il y a des informations, bien sûr, on vous les diffuse. Édouard Dorian-Sipel, pardon, vous vouliez prendre la parole.
Oui, je crois qu'il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est quelque chose que j'ai décrit avant même les Gilets jaunes, c'est la fracture de confiance. Voilà, on est passé de la fracture sociale à la fracture de confiance. Et la coupure s'aggrave. Les Gilets jaunes en étaient une expression. Et on voit que cette fracture de confiance, elle atteint même l'autorité de la science. Il y a une perte de repères et de sens, une défiance majeure vis-à-vis de toute autorité, de toute institution, qui fait que nous avons ces symptômes, je me permets de parler comme ça, de gens qui se méfient, y compris de quelque chose qui est censé les protéger et dont ils savent bien que ça protège. Parce qu'ils le voient. Mais quelque chose fait que il y a une fracture de confiance, il y a une grande défiance, et y compris on est prêt à ne pas faire le geste qui protège, et qui est celui de se vacciner. La deuxième chose, pour répondre à ça, si on veut aller maintenant plus loin, et je suis d'accord avec ce qu'a dit François Pupponi, je connais le Val d'Oise, moi, je suis moi-même de Seine-et-Marne, et des territoires un peu plus éloignés de la capitale sont difficiles, pour plein de raisons, sociales, territoriales. Je crois qu'il faut des dispositifs de proximité s'appuyant sur les collectivités, les associations. Il faut peut-être des bus pour aller au plus près des gens, parce que la seule façon de lever cette fracture de confiance, de lever cette défiance, c'est d'être dans une proximité près des gens qui permet de les convaincre. Alors, c'est difficile, mais il faut ce maillage-là sur ces territoires plus éloignés. C'est vrai aussi pour les personnes âgées dans les territoires ruraux. Il faut des petits bus, des petits... voilà un rôle, par exemple, sur lequel on pourrait s'appuyer avec la Poste, avec la SNCF, avec d'autres institutions qui peuvent jouer une mission de service public en innovant.
Ils sont plus dans les villages, la Poste.
La Poste a fait cette révolution-là.
Non, mais
il faut donc, je crois, que l'État, le pouvoir de l'État, s'appuie davantage sur tout son tissu dans la société civile et dans les institutions décentralisées, dans les collectivités locales, pour aller au plus près, mettre des dispositifs, des petits bus, et aller toucher les gens réfractaires dans les quartiers populaires partout. Je ne vois pas comment on ferait autrement.
Jeanne
si on
ne
va pas chercher les gens, si on ne met pas proximité
au plus près, je signale au passage que l'Allemagne classe la France et le Danemark comme zone à haut risque, en pays rouge d'infection.
Non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, mais la question des bureaux de poste, on en a fermé combien en zone rurale? Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise que la poste va jouer un rôle, mais elle s'est retirée.
Ils n'ont pas cessé de.
Non,
réinvente des services de proximité.
Oui, je suis pas sûr, je suis pas totalement sûr, mais sur, y compris sur la SNCF.
Non, mais il y a
en tout cas les fermetures des bureaux de poste qu'on a ensuite donné le fait de pouvoir à des buralistes ou d'autres, il y a quand même un problème. Et quand même la petite épicerie du village a fermé, il y a un problème de désertification d'un certain nombre de choses. Donc donc ça c'est totalement regrettable. Mais on va pas réinventer les choses. Mais moi ce que je trouve, il faut leur rendre hommage, c'est les maires. Les maires ont fait un travail considérable. Ils ont mis à disposition pour des médecins des fois des bureaux de leur municipalité. Ils ont fait un travail remarquable. On l'a vu lors de la première vague, les présidents de région, on se souvient de Laurent Wauquiez ou David Linard qui est maire de Cannes, ont fait des choses formidables. Donc on voit bien
qui ont pris les devants, hein,
qui ont pris le devant,
qui n'attendaient pas du pouvoir central justement des premières mesures, sachant qu'on va l'entendre dans un instant, Jean Castex déjà est en train d'annoncer des mesures, des restrictions vis-à-vis d'autres pays. J'en sais pas plus pour l'instant, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de recommandations. On va l'entendre dans un instant. Pardon, je vous ai coupé, Jeannette Bougrain.
Non. C'est ce que je trouve, c'est que il n'empêche que on peut que saluer. Moi, je vois bien des pharmaciens sont pas obligés de vacciner, ils sont pas obligés d'accompagner les gens, ils sont pas obligés de faire ça, et que de manière assez spontanée, les gens ont été quand même très solidaires les uns des autres. Les régions ont essayé de faire des choses, les collectivités locales. Donc, et peut-être le grand absent, ça peut, j'exagère un peu, mais c'est l'État qui a continué à supprimer des lits en réa. Voilà.
Je pense qu'un effort très important et collectif a été fait pour la double vaccination. Globalement, ça a bien fonctionné avec les mesures prises en début d'été où on a dit le pass sanitaire. Là, on a du mal sur la troisième dose. Logistique, non, c'est quand on arrive à vacciner 700, 800 000 personnes jour, ça commence à prendre des.
Non, mais.
Des,
oui, non, mais.
Ça commence à fonctionner.
Non, mais. Après, François, on a un vrai problème. Moi, je veux le dire parce que. Ouais, les choses
on a un vrai sujet, hein, c'est entre Moderna et Pfizer. Ouais, hein. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent on veut Pfizer, il n'y en a pas assez, et donc on va être obligé de vacciner avec Moderna.
Mais moi, je le dis aux gens parce que je pense qu'on attend aussi des responsables politiques qui puissent dire des choses. Moi, j'ai pris mon troisième rendez-vous, comme je crois la plupart des Français, ça sera un Moderna, et puis point barre.
Oui, c'est tout.
Il faut arrêter. Moi-même, je me suis posé la question.
C'est
je
un
dis
ARN
ici,
messager.
Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci. Non, il
n'y
a pas de
souci. Le mélange est même meilleur en termes d'efficacité.
On peut quand même faire confiance à l'État français sur ce point, aux médecins français, aux structures médicales, mais on ne peut pas continuer comme ça à laisser la confusion s'installer tout le temps. Et il faut un discours de la raison
par
qui rétablisse les choses à leur place.
Le risque, ça va être quand même que les pays vont se fermer les uns après les autres. Israël va annoncer.
C'est ce voilà. C'est le cas.
Et puis ce que je voudrais dire,
absolument.
Israël va annoncer des mesures quand même. Le pass sanitaire a quand même fonctionné. Oui. Les Français ont fini par aller se vacciner en masse. Ça a marché, c'est important, il faut le reconnaître.
C'est ce qui commence à se passer. Et d'ailleurs, je vous le disais, Jean Castex annonce des restrictions vis-à-vis d'autres pays. Il dit que les hôpitaux sont sous pression. Il dit aussi que le variant Omicron sera dominant en France dès le début de 2022 et il interdit les grands rassemblements pendant les fêtes de fin d'année. En tout cas, il appelle la responsabilité de chacun. On entendra le Premier ministre juste après cette pause.
Europe Soir Weekend. Pierre
de Villeneuve. De retour sur le plateau d'Europe Soir avec l'essayiste Jeannette Bougrabe, mon confrère de Marianne Louis-Osalter, le député du Val-d'Oise François Pupponi et Édouard Dorian-Sipel, membre du Conseil national du Parti Socialiste. On vous réserve un morceau de choix de l'intervention de Jean Castex, le Premier ministre, qui continue à dire qu'il faut éviter les grandes fêtes et les grands dîners, des restrictions à venir également vis-à-vis d'autres pays. Il en appelle à la responsabilité de chacun. Il dit que les hôpitaux sont sous pression. Tout cela alors que, chers amis débatteurs, alors que l'Allemagne classe la France et le Danemark comme zone à haut risque, alors que justement au Danemark, on a pris une mesure, on l'a appris juste il y a quelques minutes, pardon, c'est l'Irlande qui instaure un couvre-feu à 20h. On a l'impression d'être dans le monde de 2020, ouais, non, Louis Osalter.
C'est ce qui est un peu désespérant, alors que la situation n'est pas la même qu'il y a un an. Hein. Il y a le vaccin, donc les contaminations sont moins graves. En fait, le seul problème, il y a aussi moins de morts, il y a beaucoup moins de morts qu'avant, même si le nombre de morts remonte, et vous l'avez dit tout à l'heure, remonte assez dramatiquement. Mais le seul vrai problème, le seul nœud gordien, c'est à l'hôpital. Et d'ailleurs, Jean Castex annonce visiblement qu'une forte hausse de la rémunération des heures supplémentaires à l'hôpital. On voit que c'est la panique dans la gestion de l'hôpital public. Et je pense que ne comprend pas l'opinion, c'est comment après on en est à la cinquième vague et comment à la cinquième vague, on a l'impression que l'hôpital public est toujours dans la même situation qu'avant la première. Alors
on lui a enlevé
des
moyens.
Pas un an et demi, on ne peut pas former un médecin réanimateur en un an et demi, ce n'est pas possible. Mais on paye quand même la gestion budgétaire de l'hôpital par différents gouvernements depuis très longtemps.
Vous dites qu'on a enlevé les moyens, mais
n'invente rien.
Est-ce que entre le temps où on a pris conscience de l'importance de cette épidémie, c'est-à-dire les tout premiers mois de 2020 et aujourd'hui fin 2021, est-ce qu'on avait le temps de restructurer et de donner les moyens à l'hôpital?
On n'était pas obligé de supprimer des lits de réa. Moi, je me fie à des enquêtes journalistiques. On dit, bon, on a supprimé des lits de réa. Donc, à partir du moment, vu que les mesures en matière de lutte contre le Covid est liée, en fait, à des conditions matérielles, à savoir, est-on capable ou pas de gérer tant de personnes en réa, c'est ça, la variable d'ajustement. La seule variable d'ajustement, c'est ça. Et moi, je trouve ça désastreux. Et vous avez raison de parler du Danemark, parce que le Danemark a décidé de fermer ses cinémas, ses théâtres et ses salles de concert il y a quelques heures. Mais ce que je trouve très surprenant, c'est que la France ne parle... On a le sentiment qu'elle ne parle pas à ses partenaires européens, parce que si des pays classent la France en zone à risque, ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'expliquer à l'extérieur, et en particulier à ses partenaires européens, l'ensemble des mesures qu'elle prend pour lutter contre la contamination de l'épidémie. Et c'est désastreux. Voilà. Je trouve que si elle n'arrive pas à se faire entendre de ses partenaires européens et qu'on décide que les Français ne peuvent pas aller en Allemagne ou au Danemark ou en Irlande, je trouve ça regrettable. Et donc voilà.
Alors, ce qui manque beaucoup aussi, c'est du personnel. Parce qu'on peut ouvrir des lits en réa, mais on n'a pas suffisamment de personnel pour s'en occuper.
On peut ne pas les supprimer non plus.
Il ne faut pas les supprimer, mais il faudra en ouvrir d'autres. Et on n'a pas. Et alors après, se posera la question, ils sont même une minorité, du personnel soignant qui n'a pas voulu se faire vacciner, qui a donc ne peut plus travailler, qu'on va être obligé d'aller rechercher. Hein. On ne pourra pas faire face à Une augmentation de
3%. Je vous propose d'écouter Jean Castex et c'est une des annonces fortes du Premier ministre et il propose justement un projet de loi pour qu'on passe du pass sanitaire au pass vaccinal. Écoutez-le.
Alors nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass.
Édouard Dorian-Sipel, est-ce que c'est une bonne solution?
Ça sent un peu le sapin, hein.
C'est horrible.
Voir la dinde, hein. Les savoir.
Merci pour la petite blague. Alors mais que c'est un sujet blagues, grave.
Non, je crois que c'est ça, c'est la gravité. Et il faut être à la hauteur de la gravité. C'est difficile pour le pouvoir. Et là, je crois qu'il ne faut pas faire de polémique. Il faut que chacun soit responsable. Chaque Français peut être un acteur de cette bataille.
Oui, mais il n'est pas obligé de dire passe vaccinal. Il peut dire vaccination obligatoire.
Bah
c'est
non, mais c'est
tout.
Oui, pas non, mais
il n'y a pas que ça.
Ils veulent pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Il y a d'abord pousser encore plus la vaccination. Donc, aller vers une vaccination obligatoire. Deuxièmement, il y a aussi d'autres réflexes que nous ne devons pas oublier que les Français ont su faire. Les gestes barrières, c'est très important. Et il faut être responsable dans cette période. C'est difficile.
Vous m'avez vu, c'est difficile. La première émission que je fais depuis des semaines, voire des mois, où je porte un masque. Mmh. Et j'ai décidé de porter un masque en studio. Voilà.
Il faudrait peut-être qu'on vous suive. Alors.
Mais vous allez vous suivre et François Pupponi l'a déjà fait. Je profite de cette interruption pour vous dire aussi une autre annonce de Jean Castex. C'est le délai pour le rappel qui, vous le savez, était de 5 mois. Eh bien, il vient d'être ramené à 4 mois. Ça prouve l'urgence, la rapidité
mais là, il faut
avec
faire
laquelle...
Tout. Je veux donner quand même un peu de visibilité.
Édouard Dorian-Sipel qui a mis son masque. Merci.
Non, mais bon, sous la pression. Non, mais on est protégé.
Non,
il y a
c'est pas la pression. Je vous ai...
Mais vous avez raison. Et je crois qu'il y a une chose très simple, c'est que... il faut mener la bataille tous ensemble. Il faut que l'État fasse ce qu'il a à faire pour démultiplier les moyens. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Pourquoi il ne le ferait pas, franchement? Et d'une part. Mais d'autre part, tout le monde doit être dans la bataille. Si on respecte les choses, il faut passer cet hiver. C'est la période difficile parce qu'il fait plus froid. Il y a plus de facilité d'expansion pour le virus. Et donc, on sait tout ça. Il faut tenir ça. C'est difficile. Ce sont les fêtes. Tout le monde a envie. Mais je crois que là, vraiment, ce n'est pas le moment de lâcher. Je crois que c'est tenir.
Une autre annonce de Jean Castex, elle concerne les soignants. On écoute.
Nous leur devons beaucoup. Nous leur devons d'abord notre reconnaissance pour leur engagement pendant les fêtes, puisqu'ils continueront sans relâche d'être sur le pont. À cet égard, la rémunération des heures supplémentaires réalisées à l'hôpital sera multipliée par 2 à compter de lundi prochain. Et nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période.
Voilà, on parlait des soignants, on parlait de l'hôpital, Jeannette Bougrat, une annonce.
Oui, non, mais d'accord sur l'augmentation, mais après je ne sais pas comment ils financent tout ça, c'est toujours pareil. Mmh. Par contre, sur les personnels de santé de ville, il n'y a aucune annonce, donc là c'est toujours pareil. Donc ceux sur lesquels ils reposent, ceux qui vaccinent...
Ils terminent en disant que l'effort va être aussi fait sur les médecins de ville.
Ouais, non, là, je n'ai pas totalement entendu totalement ça, mais je vous dis, il y a quand même une... Ça reste... On va payer les gens qui sont à bout. Certains sont déjà en arrêt maladie, sont au bord du burn-out, certains ont démissionné. On leur dit, pendant les vacances, vous allez être réquisitionnés, mais ça fait partie aussi de leur travail. Mmh. Et vos heures sup, on va les payer. Mais je ne sais pas, ça arrive peut-être un peu tard. Je me dis que c'est toujours mieux que rien. Mais vous voyez, il y a aussi quelque chose que je voulais noter. Le pass vaccination. Le pass vaccinal. Oui. C'est encore cette espèce
pass
de
qui devient pass vaccinal.
Mais c'est une espèce de novlangue.
Dans un projet de loi.
Les choses devraient être claires en réalité. Soit on passe par la loi, on fait une vaccination. Quel est l'intérêt de passer par la loi? C'est qu'en réalité, on va faire de la vaccination obligatoire. Et donc voilà. Donc
non,
c'est...
parce que bon, juridiquement, on a voté une loi qui a créé le pass sanitaire.
Ouais.
Qui était soit le vaccin, soit un test. Qu'on l'a prolongé avec possibilité pour le gouvernement de le mettre en juillet. Mais juridiquement, il faut changer la structure juridique du pass en disant ce ne sont seuls pour rentrer dans les restaurants pour les gens qui sont vaccinés avec un passe vaccinal.
C'est ce que fait la Suisse aujourd'hui.
Mais, voilà. Et donc c'est le passe vaccinal,
la Suisse aujourd'hui a décidé.
Seuls voilà. Donc ouais. Les tests ne serviront plus à rien. Ça veut sauf dire que à te tester.
Les tests ne sont plus reconnus.
Bah, ils seront plus reconnus.
Ils sont déjà payants pour ceux qui n'étaient pas vaccinés.
Oui, mais on pouvait quand même aller au restaurant, par exemple.
Donc il y avait été franchi en transformant en arrêtant la gratuité des tests. Ça faisait que le pass sanitaire devenait en réalité de plus en plus un pass vaccinal.
Oui, mais juridiquement, il était...
À toute une partie
alors,
de la population.
Je vous parlais des recommandations de Jean Castex pour les fêtes, les voici.
Cela passe par une recommandation simple que notre conseil scientifique rappellera dans un avis publié demain. Plutôt qu'un nombre précis, 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur un principe de bon sens, moins on est nombreux, moins on prend de risques, que ce soit à la maison, dans un restaurant, une salle des fêtes ou un bar. Évitons les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grandes dîners dont on a vu ces derniers jours, par exemple en Norvège et au Danemark, à quel point ils pouvaient créer des clusters incontrôlables de diffusion virale.
Voilà, j'ajoute à ça que Emmanuel Macron a décidé d'annuler son déplacement au Mali, là aussi à cause du Covid. Voilà, on est ce que je vous disais.
Oui,
c'est retour en 2020. Hein.
Non, mais le Mali, c'est peut-être aussi parce qu'on se retire et que la situation n'est pas très glorieuse en réalité et que pour la France. Et donc voilà, donc c'est peut-être autre chose. Mais moi, je trouve ça insupportable de nous dire comment on doit passer Noël. Oui, c'est comme l'année dernière. C'est comme l'année dernière.
Délicat, mais je suis d'accord avec ça, mais quand même.
L'ingérence dans sa vie personnelle,
mais il faut
reconnaître
aussi qu'il y a une partie de la population.
Vous n'êtes pas d'accord, mais laissez-le
parler. Mais on ne m'a pas laissé terminer, donc je ne sais pas.
Vous avez dit, et vous avez raison, qu'on nous explique comment fêter Noël et que voilà, ce n'est pas forcément le rôle d'un Premier ministre.
Il a très bien résumé, Louis Doublé.
C'est votre
ventriloque. Non, il comprend ce que je veux dire.
Je suis désolé.
Je suis pas toujours dans le ventre là, quoi.
Je suis d'accord avec ça. Il peut y avoir, on a tous senti cette espèce de ton. Bon, qui peut être un peu
condescendant.
Mais quand même, on est tous français, on connaît le pays, on connaît les gens. Il y a parfois une partie de la population qui a des réactions infantiles, qui ne sont pas matures, qui ne prennent pas les précautions nécessaires, alors qu'ils pourraient le faire. Combien de fois on expérimente ça ? Les gens dans les boulangeries qui rentrent et qui baissent le masque et qui montent le truc, ou dans le métro qui ne portent pas le masque, pas simplement pour souffler un petit peu, etc. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Donc à un moment donné, quand on voit l'infantilisme, quand on voit aussi... un peu la toute-puissance.
Vous faites les mêmes recommandations que Jean Castex.
Je ne parlerai peut-être pas comme lui. Après, c'est une question de personnalité, j'en sais rien. Mais en tout cas, je donnerai des exemples très concrets.
Merci beaucoup. Je
prendrai les Français par la main aussi pour essayer d'accompagner les choses.
Merci, Édouard Dorian-Sipel. Merci à François Pupponi, Louis Osalter et Jeannette Bougrave.